Good afternoon, ladies and gentlemen. And good afternoon to all of you who are listening via the World Wide Web. My name is Deborah Freeman, and on behalf of the LaRouche Political Action Group, I want to welcome you to today's discussion.
Je souhaite vous accueillir à la discussion d'aujourd'hui.
Obviously,
évidemment,
the paint barely dry on the walls of the new Congress.
We have come into
a very important moment in American history.
Un moment très important dans l'histoire.
I think that there is little question
that
what we do over the course of the next days
en fait, que nous allons
will determine not only
venir,
the immediate future of the United States,
but
in fact the future of the world. We have a new Congress, one that many of the people gathered here in this room,
people
who are gathered around the United States participating long distance in this event, played a critical role in bringing about. It's a new Congress
full
of promise and hope and
optimism.
But whether or not we can deliver on that is yet to be determined. Clearly, last night, the American people got something of a flavor what the other side has to say. I think that it's fitting that today the American people have the opportunity
que le peuple américain ait aujourd'hui l'opportunité
a more historically American voice
d'entendre une voix plus historiquement américaine.
What the future should hold. There is a lot more that I could say, but
il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je pense vraiment
people have been so anxious
to
hear what Lynn does have to say
quant à entendre ce qu'il a vraiment à dire
history.
Thank you, Lynn. Thank you. Thank you. Thank you. I think we should begin by declaring this
canto
choral singing.
En déclarant cette année l'année du chant bel canto, chorale.
Which is one of the most important weapons available to us to
change. L'une des armes les plus importantes qui nous est disponible pour changer le monde.
Who look glum and miserable on the streets.
Et pour transformer les gens qui ont l'air tristes et misérables sur cette terre et qui deviennent soudain heureux, souriants.
We can proclaim it, we can declare
it,
we can
call
for it, but we must make it possible.
Yep.
What has to be done to save civilization, global
civilization, not just
largely within a span of the coming 90 days or less?
Ça va être principalement pendant un laps de temps de 90 jours au moins.
Évidemment,
la première chose que nous devons faire, pour faire les autres choses que nous devons faire,
c'est
que l'on mette le vice-président dans une genre de retraite. Involontaire ou autre.
Il faut
mettre le président des États-Unis
compassionate care.
Sous des soins pleins de compassion.
Because without the removal of these two impediments,
parce que ces deux obstacles, sans ces deux obstacles de la civilisation, celle-ci ne continuera pas.
Unshackled husband of a terrible wife.
On voit ce taré. Et l'époux, femme terrible, va être perdue dans l'histoire. Il va y avoir des guerres, comme par exemple ce qui risque de s'étancher en Somalie et au-delà. Nous sommes en train de rentrer dans une période de la plus grande crise financière de toute l'histoire moderne. En ce moment, on voit un moment comparable comme au 14e siècle avec le nouvel âge de ténèbres. Mais jamais on a une menace d'extinction virtuelle de toute une culture et de toute une espèce comme aujourd'hui. Ainsi, cela est sans précédent. Et ce que l'on va devoir faire, c'est ce que le Congrès, à présent, doit absolument faire. Les États-Unis doivent survivre. Il n'y a pas de force à l'extérieur des États-Unis qui a la capacité intellectuelle et l'influence de faire ce qui peut être fait pour réorganiser un système monétaire et financier tout entier qui est en faillite au-delà de l'irréparable. Le monde ne continuera pas comme un monde civilisé. Tout le système financier et monétaire actuel et les politiques prédominantes que l'on trouve dans le monde, aux États-Unis comme ailleurs, entre 1970 et aujourd'hui, et bien pendant cette période, nous sommes passés d'un pays, malgré toutes nos erreurs, toutes nos folies, avait encore un reste de l'héritage du président Franklin Roosevelt, par exemple. Roosevelt, quand il est arrivé, quand il est devenu président, à part quelques rares exceptions, à part, il y avait un assassinat de président McKinley auparavant, à part ce genre d'événement ainsi que des catastrophes naturelles, nous avions eu une attaque, une alliance d'intérêts anglo-hollandais. Ça, c'était l'assassinat de McKinley, mettant sur la scène un traître des confédéralistes, Teddy Roosevelt. Il y a eu une intervention de la présidence Taft qui n'était pas si mauvaise, mais l'héritage de Teddy Roosevelt allait bien au-delà. Ensuite, il y a eu un avocat passionné du Ku Klux Klan qui a relancé le Ku Klux Klan comme un mouvement de masse depuis la Maison Blanche, c'était Woodrow Wilson. Et pendant cette période, pendant la Première Guerre mondiale, et depuis ce moment-là, il y a une dégénération de la politique des États-Unis et de la mentalité de notre peuple. On a vu le reflet dans les années 20, par ce faire qu'on appelait l'ère Tapper. Au milieu des années 20, la société américaine était en train de s'effondrer. En 1929, toute l'économie a commencé à s'effondrer. Donc depuis 1901, qui était la date de l'assassinat de McKinley, jusqu'à l'entrée dans la Maison Blanche, au début du mois de mars de 1933, de Roosevelt, tout un autre pays avait été dirigé principalement par une équipe corrompue, menée principalement de Londres, ce qu'on appelait Wall Street. Ces gars-là, c'était ceux qui, à l'époque où Roosevelt a pris son siège, en 1933, les dirigeants de Wall Street, le grand-père du président actuel des États-Unis, étaient pro-Hitler. C'était Prescott Bush, le grand-papa de George W. Bush, qui a signé le papier pour remettre de l'argent à une banque allemande, revitaliser le parti nazi à temps pour qu'Hitler soit devenu, pour qu'Hitler puisse devenir dictateur de l'Allemagne. C'est les caractéristiques de sa milice associée à Wall Street. Tout lié à Londres. Et c'était passé sur la base d'initiative des États-Unis. Ça venait de l'initiative du président de la Banque centrale d'Angleterre, Montagu Normand, qui avait l'intention de faire une nouvelle guerre géopolitique sur l'Europe continentale, en se concentrant sur une attaque contre l'Union soviétique. L'Europe continentale avait été démolie comme jamais ça n'avait eu lieu avant la Première Guerre mondiale. Ça, c'était quelque chose de fait par les réseaux anglo-hollandais de l'Europe. Et ici, à Wall Street, on avait les gens qui les accompagnaient, les badés. Donc la Roosevelt a changé cela. Il a rendu les États-Unis.
Among the founders, of course, was his ancestor Isaac Roosevelt of Wall Street.
C'est-à-dire le père fondateur. C'est Isaac Roosevelt, qui faisait partie des pères fondateurs, l'ancêtre de Franklin Roosevelt, qui a fait partie des réseaux qui ont fondé le secrétariat au Trésor. Et ça, c'est la tradition de Roosevelt. Ce n'est pas une tradition en tant que celle de Roosevelt, mais c'est le fait d'avoir ressuscité la tradition constitutionnelle des États-Unis. qu'elle a été menée comme bataille contre le PETAC, le papier en 1763. Donc, président américain. Ça revient à l'époque où mes propres ancêtres sont arrivés sur ce feu. Venus de l'Angleterre. Hein? Donc de l'Angleterre. Ça passe pour venir par le Canada. Venant de France. En 1648. Quand mes ancêtres sont arrivés ici, ils sont arrivés. Pas parce qu'ils étaient en train de fuir quelque chose en tant que tel. Mais ils venaient pour amener les idées européennes, les meilleures idées européennes de cette époque, les amener à un endroit à une distance suffisamment sûre de l'oligarchie européenne pour pouvoir planter ces idées sur ces côtes et développer une nouvelle nation, une nouvelle civilisation. Ça, c'est notre héritage. Un héritage qui s'est exprimé par la Révolution américaine, par la formation de la Constitution. Par la politique absolument supérieure, préambule de notre Constitution, c'est la loi fondamentale de notre pays, pour tout véritable patriote. Parce qu'il y a là un engagement, auquel j'ai fait référence dans ce dernier texte, sur le budget d'équipement. Ce que Roosevelt a fait, c'est de répondre à une tradition profondément ancrée. Certains d'entre nous savent que nous ne sommes pas nés hier. Ce n'est pas d'une genèse biologique. La mèche biologique, c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération et qui appartient à la caractéristique particulière de l'esprit humain et pas la caractéristique biologique. Et ces idées qui sont reprises dans l'histoire par la forme de la transmission de la langue et d'autres choses, vivent en nous de façon à ce qu'il puisse y avoir période entière, plusieurs générations, d'une génération entière, entre 1901 avec l'assassinat de McKinley, et 1933 l'inauguration de la politique de Franklin Roosevelt. Dans toute cette période, c'était les pourris, la culture les plus pourries a pu se développer.
Income promotion game. But the ideas.
Mais les idées qui avaient été plantées aux États-Unis en particulier, en Pennsylvanie, ou ailleurs, dans les années 1630, de Winthrop et plus tard des Mathers, ces idées-là, c'était les idées qui ont formé notre Constitution, avec un héritage venant de Leibniz et d'autres, ces idées sont les idées des États-Unis. Ça, c'est notre âme, ça, c'est notre caractère. Nous sommes absolument souverains. En dehors du fait qu'il y a pas mal de gras oligarques dans notre pays, nous n'avons pas une culture oligarchique. On ne vient pas faire la révérence devant un tel ou un tel quand il arrive dans votre maison. Vous ne tombez pas dans une extase quand on entend « la reine ». Je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive.
On
ne peut pas. Parce qu'on a un sens qu'on est un peuple indépendant. La personnalité de l'individu est sacrée. Sa personnalité, toutes ces personnalités auront une opportunité égale. Ça, c'est nous. Ces trucs européens qu'on a déménagés pour réussir à quitter, à s'en dépatouiller, c'est pour faire une république pour toute l'humanité, une république aussi libre que possible. De la tradition oligarchique de l'Europe. C'est ça que nous sommes. Et à n'importe quel moment, quand vous avez dans une époque de crise, des dirigeants qui sont capables de répondre, même après que des générations entières aient passé où la nation a été comme ivre morte, alors on se voit aujourd'hui. On a des gens qui viennent de rentrer au Congrès, qui ont maintenant la majorité au Congrès. Et ce n'est pas juste des démocrates, mais aussi des républicains qui sont bien plus enclins à partager la perspective générale nécessaire pour sauver notre pays. Maintenant,
we have a nation which is not accustomed to leadership.
Nous avons une nation qui n'a pas l'habitude du leadership. Dans la période après la mort de Roosevelt, Eisenhower a essayé de faire des choses et il était vraiment un produit.
Together with Douglas MacArthur, he was a product of the Roosevelt machine of the
19th. La machine de Roosevelt avec Douglas MacArthur. Il comprenait ces choses. Il comprenait aussi que quand il est devenu président, il opérait avec les limitations du temps. Il devait travailler avec les limitations qui lui étaient imposées.
We had Kennedy.
Nous avions aussi Kennedy. Et Kennedy a promis d'être un grand président dans la tradition de Franklin Roosevelt.
Johnson was terrified.
Johnson était terrifié. Et depuis cette époque, Johnson était terrifié après l'assassinat de Kennedy. Après que les gens qui aient tué Kennedy étaient au pouvoir aux États-Unis à cette époque. Ainsi, il y a eu 1968. Les Britanniques avaient fait s'effondrer la livre sterling en 1967. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un scandale organisé. Harold Wilson est par conséquent devenu Premier ministre en Angleterre. L'administration de Roosevelt a détruit l'économie. À la fin de 1967, la livre s'est effondrée. Les États-Unis étaient en train de s'effondrer à cause de cela et à cause des 68ers.
That Henry Kissinger came into power in Washington. And from that time,
de cette époque, ce moment-là, ce que Clinton a essayé de faire n'a pas vraiment touché au cœur du problème. À l'heure actuelle, nous avons atteint un moment de corruption telle, d'une façon ou d'une autre, où l'objectif de l'ennemi à Londres, à Hollande et même parmi nous a tenté de nous détruire en tant qu'une force parce que nous représentions une menace à l'impérialisme qui était le même que ce qui avait mis au pouvoir Hitler en Allemagne. Par conséquent, nous avons un gouvernement qui n'a pas été entraîné par l'expérience. Il n'a pas été entraîné, formé à faire face à cette crise. On a eu une balade qu'on appelle un président.
We have a vice president who is, should be called the president of vice.
On a un président qui devrait s'appeler le président du vice, un criminel, qui n'est qu'une marionnette pour sa femme qui est plus mauvaise encore.
They represent not the United States, they represent their friends in London.
Ils ne représentent pas les États-Unis, mais leurs amis à Londres.
So therefore we have a
et par conséquent, notre présidence a été endommagée. Et il n'y a pas de sens d'une direction vraiment présidentielle dans notre direction, dans nos dirigeants, sauf parmi certains les plus importants et dans la population en général. Donc, nous ne sommes pas un système parlementaire. Ce qui peut être fait doit principalement être organisé à travers le comité des comités du Sénat et dans les comités de la Chambre qui vient d'être élu, qui caractérise une force qui peut être vraiment mobilisés à travers les différents comités.
So it's on these people,
donc c'est sur ces gens-là que l'on dépend pour réussir à avoir une transition intérimaire vers une véritable présidence qui peut agir comme une vraie présidence par rapport à notre constitution, faire en sorte de réparer ce qui doit être réparé aux États-Unis au cours des 90 jours à venir pour réparer l'avenir de l'humanité dans son ensemble. Je peux vous garantir qu'aucun pays, aucune partie du monde en dehors des États-Unis, chez qui cette qualité de direction existe. Il y a beaucoup de gens utiles, beaucoup de gouverneurs, mais ils n'ont pas notre système de constitution.
That we can, so to speak, turn on a dime to deal with the greatest financial and economic crisis in all modern history, the global crisis, which is coming on now.
The world is crise générale qui arrive maintenant. Le monde est en train de s'atteindre à une faillite systémique.
Take an
example. Maintenant, regardons de l'autre côté. Prenons un exemple.
What's the other guy say? Well, we can't afford it. It'll sink the economy.
Prenons quelqu'un qui dit « Ah oui, il faut un salaire minimum ». L'autre dit « Ah oui, mais ça détruira l'économie si on donne un salaire minimum ». Il dit bah, « Oui, mais je vais mourir si j'ai pas un salaire minimum ». « Ah ben, on va mourir au nom de l'économie ». Alors là, c'est quoi le problème? Il y a deux problèmes. Premièrement, que l'on impose, comme l'économie, la politique imposée par les requins de Wall Street est en train de pomper tellement de force économique par les méthodes de l'usure, le coût de l'usure sur l'économie. Et si grand qu'on ne peut pas payer ce que les usuriers demandent. Donc on va devoir réduire ce conseil. Mais le problème est plus profond. Le fait est que Joe travaille pour un salaire minimum finalement ne peut pas être assez productif pour justifier le coût de l'économie, le coût de son salaire minimum. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir changer quelque chose, changer la politique. Alors quelle est la politique? Et bien depuis 1971, nous avons fait une transition incité par les 68 qui passe des premiers agro-industriels produisant la nourriture, produisant non pas des ressources en tant que telles biologiques, mais si vous regardez un peu plus là, on a fait passer tous nos emplois dans des pays où la main-d'œuvre est payée très peu. Et on prend le cas de la Chine. Cela va vouloir dire que le marché d'exportation de la Chine dépend principalement de ça. Donc la Chine est devant une crise extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle a trop de gens pauvres. Pas qu'on
doit
pas les éliminer. Le fait est que les économies ont tellement de temps pauvres, ils n'ont pas
possible
de la pauvre économie indispensable, une économie interne, comme l'économie interne à la
Chine.
Il y a un parallèle en Inde, une situation similaire à travers le monde.
To which industry has and agriculture have fled.
Pour les pays dont l'agriculture s'est effondrée. Pour la situation où un monde tout entier est en train de s'effondrer. Vous avez probablement vu avec la triple courbe qui est dans l'édition de cette hier. Au cours de la dernière période, principalement à partir de 1977, la productivité des États-Unis par personne s'est effondrée de plus en plus vite. C'est-à-dire la productivité par personne et par kilomètre carré des États-Unis s'est effondrée depuis environ 1972, mais en termes vraiment statistiques, par personne à partir de 1977. C'est-à-dire que depuis 1977, si l'on prend les 80% des revenus à partir de là, leur revenu physique, mesuré en termes
income has been collapsing.
Physique et autres.
At an accelerating
rate. De plus en plus rapidement.
You have a section of the upper 20%, that is within the upper 3%.
Quand on regarde les 20% les plus aisés, en particulier les 3% qui sont super riches, alors qu'ils ne gagnent rien, vraiment. Et
que
les 80% qui restent sont en train de faire ce boulot et on ne leur donne rien du tout. Pendant ce temps-là, il y a une condition économique qui est détériore, économique qui passe d'économie productive à une société soi-disant post-industrielle, et par conséquent, c'est principalement un travail comme l'Empire romain.
Alors,
notre problème est de restaurer les États-Unis en particulier
pour
que ça devienne puissance agro-industrielle principale basée sur la haute technologie et qui aura besoin de gros investissements dans l'énergie de terre. On va devoir essentiellement éliminer beaucoup d'indépendance sur les autres modes de production d'énergie, se débarrasser de ces idées farfelues de ressources, par exemple biologiques, pour produire de l'énergie. Si on prend par exemple le cas à l'ouest de
Mississippi,
il y a toute une zone qui est passée d'à côté au Texas, qu'on appelle l'aquifère d'Ogala. C'est la source d'eau principale pour cette zone. Cette zone est en train de arriver à un point où toute cette zone, les États-Unis, est condamnée, à moins que l'on change les choses. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre la combinaison de l'eau fossile de cette zone et des eaux qui viennent dans l'aquifère.
De
façon bien, on consomme bien plus rapide que l'aquifère ne passe en prise. Et il y a un épuisement sérieux du territoire. On va avoir une désertification si ça
continue.
On a une perte de la productivité potentielle. Grosse partie de la zone de l'aquifère d'Ogala. Il y a beaucoup de fossiles, cette eau qui s'est logée pendant à peu près 2 millions d'années, au cours des 2 millions d'années qui viennent de passer dans la croûte supérieure de la biosphère. Une grande réserve de fossiles en Inde, par exemple, qui a 2 millions d'années. Aussi aux plus grandes périodes de glaciation et à leur fin. Alors, celle de l'eau, alors, prenez le cas de l'Australie, par exemple. L'Australie a besoin de beaucoup d'eau et a beaucoup de désert. Pourtant, ils ont beaucoup d'eau. Comment se fait-il? Eh bien, l'eau se trouve à l'extérieur, autour de l'Australie. Et l'Australie a une grande opportunité qui est de l'eau dans tous les océans qui l'entourent. Mais comment l'utiliser? Comment la dessaler? C'est la seule façon efficace que nous avons sur une échelle de masse. C'est l'énergie de l'atmosphère. Ce n'est pas la meilleure chose pour l'avenir. Ça, c'est la meilleure chose pour l'avenir de ce qu'on peut faire maintenant. Il y a les réacteurs de fission nucléaire que l'on devrait produire à l'heure actuelle à travers la fission nucléaire et prendre à partir de là, à travers des densités de flux énergétiques très larges, nous devrions générer des ressources basées sur l'hydrogène, de l'eau, en utilisant certains types de réacteurs nucléaires. Ça veut dire que dans toute partie du pays, on peut prendre n'importe quelle eau, même de l'eau sale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer cette eau en des ressources basées sur l'hydrogène. On n'a pas besoin d'aller chercher du pétrole en Arabie Saoudite. On peut faire en sorte d'avoir des meilleures ressources ici à la maison, un meilleur carburant. Ça, c'est la direction qu'on doit prendre.
We have raw materials management problems on the planet.
On a des problèmes de gestion des matières premières sur toute la planète.
Raw materials in Northern Asia.
Comme par exemple,
we can generate
dans l'Asie du Nord et en Russie, on peut générer dans cette zone
we supply raw materials at acceptable prices for Asia as a whole, an area of growing population, a need for growth.
Avoir une zone de population croissante.
But to do that, we have to go into
pour le faire, ça passe à la fusion thermonucléaire.
Of materials to reprocess and process materials in a creative way to ensure that the supply of raw materials at a reasonable price.
Comment garantir les matières premières pour qu'il y ait de l'eau disponible pour tout le secteur. Alors, ne parlons pas de ce qui semblerait pragmatique. Ça a été fait ainsi dans le passé. Le progrès, c'est le seul avenir qu'on a.
In terms of an economy which is oriented toward
on pense à l'économie, sur le progrès technologique,
away from the post-industrial society which has been killing us,
quitter la société post-industrielle qui nous a tués, rejeter cette société post-industrielle,
devoir
une économie d'avenir et passer à ça, de prendre comme on veut les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, de les mettre au travail.
From a nation which had been broken and
desperate, de les faire passer d'une nation qui avait été brisée, qui était passée,
produced a nation which represented a power beyond the imagination of anybody who had existed before that time.
Qui représentait un pays qui était plus fort que tout ce que quiconque avait pu imaginer à l'époque.
We won the war. We saved the world from Hitler.
On a gagné la guerre. On a tué le monde
Hitler. Without our role in that, we would
have joined Hitler. Sans notre rôle, on n'aurait pas pu.
Les Franklin Roosevelt, who got the
Britanniques auraient rejoint Hitler, nous n'avions pas été là.
It was Roosevelt.
Ils avaient un pacte avec Adolf Hitler. C'est par Roosevelt, à sa direction, grâce à sa mobilisation sur l'économie. Qui a été assemblée la plus grande puissance que le monde avait jamais vue. Nous l'avons fait sous la direction de Roosevelt. On peut le faire à nouveau. On peut le faire avec cette population brisée. On peut le faire à nouveau malgré tout.
Ce
que peuvent faire les baby boomers.
The various things like
Dr. Spock. Le problème, c'est qu'on les a entraînés à penser comme ça. Comme Dr. Spock, transformer les gamins en monstres. C'est ça sa recette.
On
a dit, voilà, donnez-leur cette soupe tous les jours, ils deviendront des monstres. Ça a marché. Et donc, il faut qu'on regarde ce qui ne va pas spirituellement, intellectuellement et physiquement. Parce que ce qui ne va pas physiquement est aussi un résultat de ce qui ne va pas mentalement. On fait des erreurs, on fait des mauvais choix. On vote pour le mauvais candidat, on vote pour la mauvaise politique, on soutient les mauvaises idées. Et c'est comme ça qu'on a des ennuis. Parce que nous sommes un pays, à cause de notre constitution, où les gens peuvent contrôler leur gouvernement à travers des gens qui votent, qui élisent dans le gouvernement. Et quand les gens réussissent à bouger, on peut accomplir des miracles. Et on peut obtenir des miracles à partir de cela aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et
ça, c'était indispensable, intentionnel. Les gens qui sont venus au pouvoir ne pouvaient pas détruire complètement ce qui avait été laissé par Roosevelt. La nouvelle administration ne pouvait pas complètement détruire les États-Unis. Il y a eu un système de Bretton Woods, un bon système, qui a détruit entre le milieu et la fin des années 60 et cassé en 71. Il y a évidemment que c'est un bon système. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme en Europe, même pour le Congrès de la liberté culturelle, ils voulaient détruire l'héritage de Roosevelt et ils l'ont fait avec l'âge de Spock.
with the aid of the theory, which is actually a Nazi-like theory, the theory of the authority.
Avec l'aide d'une théorie. Le type qui dit qu'il ne croit pas à la théorie des conspirations, il est fou.
Il dit
qu'il ne croit pas, ça veut dire quoi? Ben, il parle comme ce nazi, Martin Heidegger, qui dit que l'individu est toujours en conflit avec la société. La relation entre l'individu et la société ne peut qu'être existentialiste. Beaucoup de social-démocrates ont fait en sorte de détruire les États-Unis de l'intérieur. Toutes les parties de la population à col blanc comme les 68ers, ils sont arrivés comme les 68ers. Des formations sociales qui a détruit en particulièrement la population et le Parti démocrate. La direction de ces clowns et qui a détruit le Parti démocrate. Et qui a rendu l'élection Nixon possible. Le problème, c'est que la génération des baby boomers a été organisé pour ne pas croire à la vérité. C'est contre les théories de conspiration. Ben, tous les progrès de l'espèce humaine ont été faits par des conspirations. Les gens ont pu changer leur comportement à cause du progrès technologique, avoir des programmes d'éducation. On amène des nouvelles technologies, on change les relations entre les pays. Et ça, c'est des choses que les gens organisent ensemble pour faire que tout s'améliore. Tout ce qui est fait de bon dans la société, c'est des complots. Et tout ce qui est fait de mal dans la société, c'est soit par erreur, soit c'est des complots aussi. Donc si vous n'y croyez pas, soit vous avez besoin d'être surveillé mentalement, vous êtes un gamin. Un être humain. C'est des idées, les chimpanzés n'ont pas d'idées, peuvent pas penser. Et une société qui soit libre de la personnalité autoritaire, et bien si vous voulez qu'ils adoptent la société existentialiste, ben faites en sorte qu'ils suivent les singes Rhésus dans leur groupe. En niant l'existence de principes, ce que l'on a fait, qu'on a transformé une génération maintenant au pouvoir, dans les institutions, qui dit maintenant j'en ai rien à foutre de l'avenir. J'aime pas mes enfants. J'en ai marre de les soutenir. Je veux pas payer leur éducation, mes enfants, mes petits-enfants. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je veux juste vivre les dernières années de ma vie qui me restent pour ce que je considère le confort. Peu importe ce qui vient après moi. Ce qui m'importe, c'est l'ici et maintenant. La gratification à court terme. Voilà les comportements sexuels et de mariage des baby boomers aujourd'hui. Ce que l'on a aujourd'hui se démontre aussi bien dans les rues des États-Unis de l'Europe. C'est des groupes de jeunes adultes, des générations de jeunes adultes qui ont sont exactement la même tranche d'âge que ceux que Benjamin Franklin avait organisé et qui ont fait la Révolution américaine, qui ont gagné la Révolution américaine, qui ont mené la bataille et qui ont créé la Constitution des États-Unis d'Amérique. La génération d'Alexander Hamilton, par exemple. Un produit de Benjamin Franklin. C'est pas plus vieux que les gens d'aujourd'hui. Entre 18 et 25 ans, entre 18 et 35 ans. Et dans toute l'histoire, tous les gens qui ont été créés, tous les changements qui ont eu lieu pour le mieux, parfois même pour le pire, est venu de cette génération de gens qui sont adultes dans leur orientation, qui regardent en avance à deux générations. Ce sont le genre de personnes qui regardent, quand ils sont plus âgés, leurs petits-enfants comme leurs investissements dans l'avenir. Ça, ça a été détruit. Détruit d'un point de vue moral. Le fait est que l'être humain n'est pas juste une chose physique. Mais il y a quelque chose qui représente un principe immortel qui appartient aux idées, qui est de l'ordre d'idées que seuls les êtres humains peuvent générer. Si vous perdez ce sens d'immortalité, alors vous n'avez pas un sens de ce que ça veut dire que vivre dans l'avenir après votre propre mort. Si vous pouvez dire, vous pouvez vivre après votre mort, à ce moment-là, vous avez une moralité, vous avez raison. Et vous pouvez risquer votre vie, parce que ce n'est pas votre vie que vous êtes en train de défendre. C'est votre existence future, après votre vie. C'est une transmission d'idées pour laquelle vous vous battez au nom de l'avenir. C'est ça qu'on est en train de faire quand on a vu se refléter dans les élections de mi-mandat. Le rôle crucial, marginal, joué par le vote croissant des gens d'abord entre 18 et 25 ans et ensuite jusqu'à 35 ans. Et si on regarde les faits sur les votes des gens dans cette dernière élection et que l'on compare à celle d'avant, on voit qu'il y a un changement révolutionnaire fondamental avec une nouvelle génération adulte. C'est à la base pour une nouvelle direction, un nouveau leadership dans la création de la politique de ce pays et du monde. Par conséquent, on peut réveiller les vieux baby-boomers de leur sommeil et de leur sale rêve, et on peut leur dire « revenez à la vie ». Engagez-vous à l'avenir de ce pays. Ce que l'on doit faire doit être fait. Au nom de l'avenir, et nous devons avoir une politique pour convertir ce pays et le monde. Et nous devons adopter une politique qui bâtira la fondation pour un avenir de l'humanité. Au sens où Roosevelt, Franklin Roosevelt a tenté de le faire quand il était dans la chambre, dans la Maison Blanche, en 1933. Ça, c'est notre mission. Et ça, c'est ce qui est devant nous. Maintenant, à l'heure actuelle, on n'a pas un président. On n'a pas un président, on a une chose.
He's just a sick guy. What do you do with a sick guy? You try to help him. Well, the first thing to do is help him out of that terrible job he has. The vice president, I think we ought to chain him and his wife up at night. And get ourselves a bright, new, shiny vice president. We don't have those things accomplished right now, but they might come sooner than Cheney likes. But we must have that perspective, and in the meantime, we must say, what are we going to do in the House of Representatives and the Senate? Because those are central focus of institutions. What are we going to do to get this nation safely through the coming 90 days or so? Preferably less. Now, the main thing we have to deal with, apart from this threat of war, which is essentially a byproduct, what we have to do in the main is we have to recognize
C'est reconnaître, malgré toutes les objections de la réalité, qu'on est à l'heure actuelle dans la phase terminale d'un processus d'effondrement général. Ceci n'est pas une dépression, mais une crise générale. Si on ne fait pas certaines réformes dans les institutions, dans la situation où le monde est en train de s'effondrer, de se désintégrer, à cause
you just go into a permanent slide, into a bottomless collapse, a biological collapse as well as a financial collapse. This is worse than a depression. It's a breakdown crisis, comparable to what Europe experienced in the middle of the 14th century, the so-called New Dark Age. That's what the world as a whole faces, unless something is done about it. And what has to be done cannot be done from any other place of origin than right here in the United States. In the Congress. The Congress is not inclined to want to take on that job.
Le Congrès n'est pas enclin à vouloir prendre ce boulot-là. Ils ont d'autres priorités, disent-ils. Ils réfléchissent à leurs priorités, à les mettre dans l'ordre. Ce que le Congrès est en train de faire, en général, en tout cas le meilleur côté du Congrès, avec de plus en plus de républicains, c'est d'essayer de s'occuper de ces questions une par une. Et basé là-dessus, ça ne marchera pas. La chose particulière, c'est deux choses. D'abord, on ne devrait pas avoir une économie basée sur l'argent. Dans une économie nationale dans l'ensemble, l'économie est une économie physique, normalement, pas une économie d'argent. Ça, c'est la différence entre le système britannique et le système américain. Le système britannique, c'est un système monétaire, basé sur l'autorité de l'argent en tant que tel, la monnaie en tant que tel. Et ce qu'on va vous dire, c'est qu'il faut vous comporter comme l'argent voudrait que vous vous comportiez. Dans le système britannique tel qu'il nous désintègre en ce moment. Le système américain, c'est un système d'économie physique, pas d'économie monétaire. On utilise un système monétaire. Comme si c'était au Massachusetts quand ils sont arrivés au début. Et qu'ils ont introduit justement la circulation des biens et des produits. Et pour cela, ils ont eu besoin de créer. Et nous ne sommes pas un système anglo-hollandais. Nous ne sommes pas un système Marx. Marx était un étudiant du système britannique. Et un défendeur absolu, même s'il était rebelle, de ce système britannique. On peut soit prendre ce libéralisme anglo-hollandais, soit ses dérivés marxistes. Mais ils sont tous générés par cette notion de la valeur comme monétaire et non pas une valeur physique. La plupart des gens qui connaissent la production des États-Unis par personne et par kilomètre carré aux États-Unis et la consommation par personne et par kilomètre carré du territoire des États-Unis est en train complètement d'accélérer vers le bas. Alors que l'argent en circulation dans l'économie s'est complètement développé, dépasse l'orbite de la planète Terre. Le résultat de cette situation, où l'économie américaine, on est à un point où toute la dette qui est en cours est si grande que le système de la réserve fédérale des États-Unis a annulé leur publication des statistiques de M3, de leur masse monétaire générale, parce qu'ils sont en train de faire une émission à un taux électronique de dingue. Ils sont en train de faire finalement, faire quelque chose de l'économie. N'est pas en train de croître du tout, et la masse monétaire n'est pas en train de croître, mais elle est en train d'exploser tellement elle est en train d'augmenter. Et quand on a ces tendances monétaires vers le haut, le prix des choses est tel que ce système est maintenant fini. Il n'y a rien qui puisse sauver le système monétaire actuel du monde. Absolument rien. Si on veut obéir aux règles du système, eh ben vous allez tomber en enfer. Voilà ce que vous allez faire. Ça veut dire que vous avez commis un grand péché en faisant cela. En essayant de garder le système. Donc on va devoir mettre en liquidation le système monétaire actuel, international. Comment on fait ? Eh bien, on prend les principes de l'économie physique. Comment est-ce qu'on fait ce que Roosevelt a fait ? Même si la situation est pire. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on met tout le système en réorganisation. Par exemple, nous, aux États-Unis, si nous voulons survivre pendant les mois qui viennent, mais juste les pas de siècle, mais juste dans les mois qui viennent. Si on veut survivre, il faut qu'on ait un gouvernement fédéral qui prenne le système de la réserve fédérale et le mette en organisation de faillite pour empêcher un effondrement de banque. Sinon, on va avoir un effondrement général de toutes les banques principales des États-Unis. Par conséquent, pour empêcher une catastrophe sociale, une catastrophe économique, on peut mettre les banques en réorganisation générale. On peut faire cela pour pouvoir maintenir une fonction générale de fonctionnement des banques, des fonctions normales par rapport à l'économie et la population. Il faut que les choses soient payées, il faut que les gens soient embauchés, il faut garder les choses en mouvement. Mais on ne va pas pouvoir payer ces choses-là à temps. Et le système, le gouvernement fédéral peut le faire simplement en prenant la réserve fédérale et en la réorganisant lui-même dans une organisation de faillite. C'est le pouvoir qu'a le gouvernement d'organiser une faillite. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas sauvé sa vie. Mais ça c'est pas des perspectives lointaines, ça c'est maintenant. Au cours des trois prochains mois, il faut qu'on s'attende à faire face au point de crise. Ou soit c'est une relation de faillite, soit vous allez directement tomber en enfer sans billet de retour. Voilà notre situation. Et si vous avez le trip de le faire, c'est une chose, il faut la connaissance de le faire, c'est une autre chose. Savoir que l'argent, c'est un mécanisme que l'on peut réguler. Toutes les politiques des années 50, quitter les politiques du commerce équitable, de l'échange juste. Là, on se rend compte que l'argent, c'est un idiot qui ne sait pas ce que c'est que la valeur. Et donc, on régule l'argent en mettant des impôts, des tarifs, de façon à ce que le système monétaire est maintenant entraîné à fonctionner de pair avec des valeurs qui sont fonctionnelles. Et on veut garantir que l'industrie qui est essentielle puisse avoir l'argent qu'il lui faut, tout l'argent qu'il lui faut, sous un système de régulation, pour survivre. Si c'est une industrie utile, il n'y a pas de raison qu'on la mette à fermer, à cause du fait qu'elle n'a pas le moyen de continuer parce que les prix sont trop bas. Ben non. Il faut faire en sorte qu'ils ne sont pas obligés de vendre leurs produits à un coût qui est inférieur à la production. Il faut falloir des investissements d'équipements en biens physiques, des régulations comme la protection des salaires, du niveau des salaires. On ne veut pas que des familles échouent, on ne veut pas que des familles se déchirent. Que des familles normales, des communautés normales puissent survivre. Et ça ne peut qu'être fait avec le pouvoir du gouvernement à réguler l'économie financière, pour garantir que les effets physiques qu'on est en train de créer pour les gens de la génération future en particulier soient ce que l'on veut. Et on va rétribuer les gens sur leur ingéniosité. Et les grandes corporations, c'est pas la peine parce qu'elles n'ont pas de conscience. Les petites, au contraire, surtout celles qui sont technologiquement progressistes, et bien là, on parle d'une économie qui a une personnalité, par contre. Les grosses corporations n'ont pas de personnalité. Elles ne sont pas humaines. C'est un monstre, quoi. Donc, par conséquent, ce qu'on préfère, c'est des firmes qui sont tenues de près, maximum 200 ou au plus gros, vraiment 500 employés, dans lesquels l'orientation vers l'avenir, c'est le principal. Où le dirigeant de la corporation ou les dirigeants ont certaines caractéristiques. Ils sont en train de vouloir bâtir l'avenir. Ils sont en train de penser à l'avenir de la communauté dans laquelle ils se trouvent. Ils sont en train de penser à une direction future de la corporation. Ils font partie d'une communauté d'entités qui travaillent ensemble pour garantir que les moyens de base de la communauté soient fournis. Qu'est-ce qui va pas, par exemple, le système d'éducation, le système des écoles? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources pour résoudre le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses dans notre communauté? C'est le fait d'avoir une approche nationale du haut vers le bas pour toute cette politique, au lieu d'avoir une approche de bas en haut. On n'a pas un endroit où les gens vont se rassembler comme une foule se rassemble, mais une communauté au sens où il y a des voisins qui travaillent ensemble pour prendre vraiment en charge les nécessités de cette communauté tout entière. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est les gens qui sont physiquement utiles à la société et qui peuvent améliorer ce qu'ils font et avoir une influence au fur et à mesure qu'ils méritent, disons qu'ils développent un chemin qui aide vraiment les autres. Des dirigeants qui répondent vraiment aux besoins de la communauté. Qui répondent aux besoins de la ville, du comté. Et qui pensent à ce qui est arrivé à toute la nation de ce point de vue-là. Voilà une façon traditionnelle américaine de faire les choses. C'est ce qu'Hamilton écrivait dans son traité sur les manufactures. L'augmentation des pouvoirs politiques de la main-d'œuvre la productivité vient de l'augmentation de la production par tête et par kilomètre carré. Pour qu'une économie réussisse et se développe, il faut qu'il y ait un environnement économique qui permette d'amplifier, dans une telle région, d'amplifier ses puissances économiques. Par exemple, sur l'énergie, il y a des choses qui sont privées, d'autres qui sont publiques. Mais on a besoin de tous les éléments d'infrastructure, tous les éléments d'administration du gouvernement, pour garantir à ce que les producteurs locaux, les entreprises locales, puissent faire une contribution qui contribue aux puissances productrices de la main-d'œuvre en termes physiques. On ne parle pas des fermes d'or, etc. C'est ça ce que l'on avait comme une tradition. C'est ça que l'on avait comme l'approche de Franklin Roosevelt. C'est ça qu'on avait avec l'idée, dans les années 50, d'un système d'échange juste. C'est ça qu'on a perdu quand les 68 ans sont arrivés au pouvoir. Ouais, l'école blanche, c'est vraiment pas terrible. L'industrie, c'est mauvais. La science, c'est mauvais. La production, c'est mauvais. Tout ça va plus. Vous avez des grands entrepreneurs, soi-disant, qui vont vous dire que tout ça, ça pue. Puis c'est vraiment des gens qui avaient mauvaise haleine. Donc la question ici, sur laquelle je me concentre avec ce rapport, sur la perte du budget d'équipement, c'est comprendre comment ce genre de système fonctionne. L'autre aspect de cela, qui est crucial ici, c'est que si on regarde les gens et la façon dont ils pensent à l'économie, à la science, ils pensent à ce qu'on appelle, ils pensent d'une façon qu'on appelle cartésienne. Prenons le cas de 1988. Août, septembre, 1998. et l'effondrement de la corporation spéculative d'LTCM, qui a menacé de faire éclater toute l'économie des États-Unis. Sur Bill Clinton, où il y avait la Bob Rubin, qui était le trésor à l'époque, a agi massivement pour empêcher un effondrement général. Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Parce que les ennemis des réformes avaient arrangé une décision constitutionnellement illégale d'un président des États-Unis. Et toute cette bousculade, cette façon de déranger l'administration de Clinton, à partir d'août et en particulier de septembre 1998, a fait que l'administration Clinton, y compris le secrétaire au Trésor, n'ont pas agi comme ils savaient qu'ils devaient agir pour restabiliser le système en le remplaçant. Ce qu'ils ont fait, ils se sont adaptés à la réalité politique de ce qu'on ne leur laissait pas faire, pourtant qu'ils auraient dû faire. Mais rien n'a été traité. Quand George Bush est arrivé après l'effondrement de la bulle de l'an 2000, il y avait la perspective de ce pauvre Al Gore, et avec ce personnage qui peut politiquement changer de sexe régulièrement, Lieberman. Il y a eu cette élection douteuse de George W. Bush Jr. Des gens ont élu, on leur a dit d'élire, c'est-à-dire Bush. Donc on n'a jamais eu face à la question. On arrive à ce point. 6 années quand on a passé tout Bush. Il n'y a plus d'espoir. Dans le cadre du système actuel. Par conséquent, il faut qu'on revienne au système américain. Il faut en général qu'on revienne aux idées généralement acceptées par Franklin Roosevelt. Des idées qui ont bien fonctionné. Même après que Roosevelt n'ait plus été là pour les appliquer, il faut qu'on remonte à cela. À l'état d'esprit avec lequel Kennedy lançait des hommes sur la Lune. Ça, c'est peut-être la mesure de la politique qu'on organise, d'avoir toujours un but physique qui lance une génération en avant, qui est la façon modèle de réfléchir, un ancrage pour la pensée, de regarder vers l'avenir. Parce qu'on mobilise alors les gens selon leur sens d'immortalité, leur sens d'immortalité se trouvant dans ce qu'ils pensent qu'ils font aujourd'hui pour le développement futur. Les gens qui pensent en termes physiques, en termes non pas physiques, mais du long terme, pensez à l'effet sur le long terme de votre vie. On vous a donné une mauvaise perspective pour votre vie aujourd'hui, comment la corriger? Selon les réflexions, est-ce qu'il est nécessaire? Le problème, à nouveau, c'est de développer cela. Parce que les gens ne pensent pas en termes d'un processus général, ils pensent que c'était d'un point de vue hobbien, où ils voient une mer de conflits, où la guerre est inévitable. Toutes ces gens dit aussi. Essaye de faire de la compétition entre les pays juste parce que c'est de la compétition. Ça marche comme ça. Alors les gens ne pensent pas à l'économie. On leur donne un rapport statistique, comme ce que fait Marge Scholes avec sa formule sur l'économie. Les gens qui font des prévisions, en très grande partie, ce ne sont que des idiots comme Myron Scholes. Parce qu'ils pensent qui peuvent être des penseurs cartésiens, avec le genre de système où l'on peut projeter l'avenir en prenant vraiment des tendances et en appliquant comme ça un modèle pour l'avenir. c'est intrinsèquement incompétent parce que la façon dont les économies fonctionnent, c'est au sein de certaines frontières. On est toujours en train de s'approcher d'une frontière, d'une limite. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette limite, elle s'effondre de façon inévitable, à moins que l'on change totalement la limite en question, en créant de nouvelles conditions, en créant une amélioration politique, une amélioration scientifique dans la technologie, comme le fait de basculer dans l'énergie, à l'énergie nucléaire, de passer à la fusion nucléaire, à une économie isotopique, de passer à une gestion des ressources de la planète en améliorant les ressources en question qui sont disponibles sur la planète. Il ne faut pas se plaindre de l'environnement, il faut le changer. Arrêtez de révérer l'environnement, changez-le. Il pue. Il faut changer le bébé, il est en train de puer. Parce que la façon dont je fais les prévisions, la façon dont je fais les prévisions, mais les gens n'aiment pas la façon dont je fais les prévisions, parce que je vais leur dire, voilà la condition de frontière, voilà la limite, et on peut se rapprocher d'une limite, au bout d'un moment, on va rentrer dedans et on va avoir un crash. J'ai toujours fait des prévisions sur la base de dire que le système économique fonctionne du point de vue d'une condition de limite. Ça, c'est quelque chose dont les gens en général n'ont aucune connaissance. De penser au processus d'un point de vue dynamique. C'est pour ça que les jeunes adultes et le LIM, c'est ça qu'ils sont en train d'étudier. Progressivement, ils sont en train de travailler sur l'étude de la racine dans la Grèce antique de la science moderne, en particulier avec les pythagoriciens. Et page à page, chapitre par chapitre, on relive le processus de la découverte de l'astrophysique par Kepler. Ils sont en train de le revivre, ils ne sont pas en train de dire « Ah oui, je sais ça ». Non, ils sont en train de revivre les moments dans les travaux de Kepler. Quand on arrive à un chapitre, on a une page, donc il y a des questions qui ne sont pas résolues, qui sont posées. Alors, quelle est la réponse? Et ben, il faut qu'ils mettent leur esprit au travail pour voir ce qu'est la réponse. Dans un chapitre suivant. On ne comprend toujours pas. Gros problème. Il voit le problème. Il prend le chapitre de la nouvelle astronomie. Par exemple. Et ça produit une crise. Quant à comprendre toute l'information des positions, n'est-ce pas? Quant aux positions effectives du Soleil, de la Terre et de Mars, on essaie de mesurer, on tombe sur les coins. Et ça, évidemment, c'est devenu la base du calcul différentiel de Leibniz. Maintenant, on va passer de ça à certains travaux sur Gauss, de la continuité de l'émergence du système dynamique. Par Bernard Riemann. Et ces gars-là sont en train de travailler sur ça, ils auront fini en quelques mois. À ce moment-là, il y a vraiment un ancrage dans la science moderne. Ils ne sauront pas tout, mais ils sauront les principes essentiels, fondamentaux de la science moderne, physique. Ils sont capables de réfléchir dans ces termes. Ce que la plupart des gens de la société ne peuvent pas faire. La plupart des professeurs d'université, dans la science, ne sont pas capables même de penser dans ces termes aujourd'hui. Parce que le principe ici, c'est d'équiper une génération de jeunes adultes qui arrivent de la tranche d'âge entre 18 et 35 ans pour qu'ils deviennent consciemment responsables de l'avenir de l'humanité et impliquer toutes les générations futures de la société existante, les équiper en introduisant des principes de nature supérieure qui vont nous permettre d'augmenter la capacité productrice et d'équipement de la société, qui promouvera la coopération plutôt que le conflit. Et que ces gens-là pourront avoir un sens de leur identité, de leur personnalité, sur la base de ce qu'ils peuvent contribuer pour le futur. C'est le genre de choses que mes ancêtres ont amené quand ils sont venus dans la Nouvelle-Angleterre et au Canada. trouver un endroit sur ce continent à une distance suffisamment lointaine, éloignée de l'oligarchie de l'Europe, qui était le problème. Cette oligarchie qui a été là de prendre les meilleures idées de toute la civilisation européenne dans l'histoire, dans un territoire nouveau, à partir duquel on allait pouvoir organiser une nation pour l'espèce humaine. Et se libérer de l'oligarchie, libérer le monde de l'oligarchie qui était encore l'Europe continentale aujourd'hui. Merci. Céline pour ses remarques. Je vais juste répéter aux gens qui sont peut-être pour nous, avec nous pour la première fois, ce qu'est le plan général, le plan que l'on va adopter. Et pour les gens qui sont ici, rassemblés avec nous dans une audience en direct, si vous avez des questions pour M. Larouche, vous pouvez nous les envoyer. J'ai simplement besoin que vous les écriviez. Et si vous avez besoin que je les lise, vous pouvez les écrire aussi. Pat a des cartes que les gens peuvent prendre quand ils les distribuent. Si vous voulez poser une question vous-même, vous pouvez, j'ai juste besoin de votre nom et de savoir qui vous représentez, si vous représentez quelqu'un d'autre que vous-même. Et le sujet dont vous voudriez parler à M. Larouche, parce que nous essayons de rassembler les questions. Pour ceux d'entre vous qui écoutent par le biais d'Internet, comme toujours, vous pouvez envoyer vos questions et à nouveau, nous tenterons de les prendre. Nous avons aussi un bon nombre de questions qui viennent pour M. Larouche d'institutions ici dans Washington. La grande majorité d'entre eux venant, en fait, de nouveaux membres et de la Chambre et du Sénat. Même qu'il y a aussi pas mal de questions qui nous viennent de vieux amis dans le milieu du gouvernement. Comme des gens qui attendent certainement, un certain nombre de questions sont arrivés au sujet du discours de président Bush hier soir. Les choses qui se sont développées à partir de cela. Je prendrai ces questions, mais je voudrais commencer avec certaines questions qui sont plus directement liées aux questions principales dont M. Larouche a parlé aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'opportunité de lire le texte de M. Larouche au sujet de l'art perdu du budget d'équipement, je voudrais vous dire qu'il est totalement disponible sous la forme d'une brochure ainsi que sous la forme de la deuxième copie du deuxième numéro de cette année de hier. C'est sur le site internet et je demanderai aux gens de se garantir non seulement qu'ils l'étudient en profondeur, mais qu'ils le fassent circuler parmi leurs associés. La première question nous vient du Sénat. C'est-à-dire d'un nouveau sénateur démocrate. La question. Et M. Larouche, comme vous en êtes probablement conscient, il y a deux camps qui semblent dominer l'environnement. D'un côté, il y a les acharnés de l'équilibre budgétaire qui demandent toujours à ce que toute dépense est pour équivalent un revenu fiscal immédiat. Évidemment, ils ne sont pas toujours contents L'autre est en train de dire que le déficit doit être absolument condamné. Évidemment, vous arrivez avec votre troisième chemin, avec l'air perdu du budget d'équipement. Ma question est une question spécifique, une question que j'aimerais que vous preniez. Et où est-ce que vous preniez le coût massif de soutenir la section de la population qui a été jetée dans la simple pauvreté? Et ceux qu'on ne peut pas employer tout de suite, soit parce qu'ils ont des enfants, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'elles sont, sont des mères qui préfèrent rester s'occuper de leurs enfants chez elles. Je ne vois pas comment on peut les placer raisonnablement dans ce que vous appelez le budget d'équipement. Et pourtant, leurs besoins doivent être satisfaits dans le budget fédéral. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner un guide là-dessus? Ça, c'est une question de pensée en termes de l'avenir, pas juste du présent. D'abord, toute solution à ces questions-là doit se situer dans le fait qu'on est en train d'arriver dans un état très rapidement où il va y avoir un effondrement général de tout le système bancaire. Donc tout va dépendre sur la volonté du gouvernement fédéral de mettre le système de la relance fédérale en réorganisation de faillite générale. Juste pour faire en sorte que les banques puissent continuer à fonctionner. Beaucoup de la dette sera annulée, par exemple, ce ne sera pas possible de payer les dettes des jeux et des paris. Beaucoup des dettes n'ont pas trouvé leur origine, les dettes actuelles n'ont pas trouvé leur origine dans la production physique, mais en général dans un espèce de casino géant, qu'est-ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui. Las Vegas n'en est qu'une petite partie. Regardez à quel point les paris et les jeux sont considérés comme une façon de faire un revenu fiscal. En Louisiane, là où on devrait plutôt s'occuper de réparer les digues, la première chose à faire, c'est faire en sorte d'annuler toutes les dettes qui sont de l'ordre des dettes de paris et de jeux. Les hedge funds vont devoir être éliminés, par exemple. Ce genre d'entités sont éliminées. C'est toute une masse physique, une économie productive. Pour ceux qui sont de l'audience française sur Internet, si vous réussissez à comprendre ce qu'on vous dit, on va faire une petite pause à cause des problèmes techniques.
Solve this. is going to be, in a sense, the character of a physical investment in the future of these people. The main thing is to increase the ratio of physically productive people in the labor force.
La plupart des services sont utilisés, on n'en a pas besoin. Hein? Débarrassons-nous-en. Avec les opportunités du gouvernement fédéral. Comme par exemple, si on a une industrie de machines-outils, qui est très importante. Il est évident que ces entreprises-là fonctionnent sur la base d'une communauté entière. Des gens. Cela dépend sur principalement des industries qui sont connectées à l'industrie d'ailleurs automobile. Et ainsi, toutes ces communautés sont liées au développement qu'on a vu dans l'Ohio, dans le Michigan. Cela fait en sorte que la production continue, par exemple dans les ports, à New York. Stockport à New York avait la capacité de produire ce qui était nécessaire pour bâtir des écluses et des barrages. La force de la main-d'œuvre avait besoin, par exemple, si nous avons besoin de réparer les systèmes des rivières, on peut le faire. Toutes les domaines de l'aérospatial y sont liés. Il y a tout un corps de haute technologie qui est là. Et on a une force de travail générale qu'on va pouvoir employer. Ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des communautés, qui ont une industrie de machines-outils. Et là où eux se... Si on veut que les gens restent à un endroit, on bâtit une communauté. Pas démoraliser les gens comme c'est aujourd'hui. Ça, c'est la façon d'organiser ce type de choses. Il faut éviter aussi les délocalisations. Il faut arrêter la dérégulation. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait basculer la production des États-Unis à la Chine. Ça leur fait du bien? Non, ça les rend dépendants de nous pour acheter leurs produits. Ce que l'on fait, c'est qu'on devrait prendre l'augmentation de la productivité en Chine en paresse de l'heure. À la baisse de productivité physique dans les États-Unis, et ce que l'on trouve, c'est que la contribution nette au destin humain est en train de diminuer en général. Si on prend le niveau de vie général des Mexicains, par exemple, il se trouve que ces idées de la mondialisation, des anglo-hollandaises de l'impérialisme qui a détruit les États-Unis, contre toute cette délocalisation, de cette manière-là, une forme d'impérialisme. Prenez la culture la plus avancée d'une population en termes de technologie, et envoyez-les dans les endroits les plus défavorisés de ces populations. Et prenez la productivité, faites la basculer à une zone de basse productivité. Le résultat, c'est une grosse diminution de la productivité générale du monde. Ça n'est pas du tout une bonne idée. Et c'est ça qui se passe maintenant. Par conséquent, on doit réorienter, on doit changer de méthode, on doit réorienter l'économie. Protéger l'investissement au sens de l'industrie que l'on protège. Donner cette protection. De viser toutes les parties du pays. Garantir que chaque État dans le pays puisse avoir une base de fonction, de fonctionnement, et que tout le pays puisse fonctionner. Et on fait ça avec une pensée de type Roosevelt, du type de ce que Franklin Roosevelt avait fait. L'objectif, c'est toujours d'augmenter la productivité par personne et par kilomètre carré. L'idiot ne comprend pas l'investissement. Il pense que l'investissement, c'est acheter des actions ou un autre bout de papier. Mais si vous regardez le résultat, c'est la bulle immobilière des États-Unis qui est en train de s'écraser aujourd'hui. Tout ce qui a mené à la catastrophe pour toute l'économie américaine et bien plus. Ce qui est passé, c'est qu'il y a une grande appréciation spéculative des valeurs des hypothèques. Tout ça, c'est des foutaises. Y compris la plupart de la construction, d'ailleurs. Ce sont des espèces de maisons qui semblent sortir de nulle part en carton-pâte. C'est des cabanes. Des cabanes en papier mâché. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la valeur nominale de l'économie. Et c'est des foutaises. Et c'est en train d'augmenter au fur et à mesure que cette bulle s'effondre. Donc il faut qu'on pense au problème que cela crée. Et si le gouvernement fédéral peut ou doit être autorisé à créer du crédit. Le crédit doit être régulé. On doit réguler une économie pour garantir qu'elle ne s'effondre pas. Il faut qu'on regarde ce qui arrive aux populations par rapport à l'intérêt général. Il faut qu'on regarde ce qui se passe en termes des proportions d'équipements et des capitaux. Il faut qu'on augmente. Il faut qu'on fasse en sorte de sortir de cette dépression, de cette crise générale, en bâtissant l'économie. On doit être très inventif. Qu'on fasse tout ce qu'on peut faire. Qu'on ait les lieux. On va avoir des comités dans le Congrès, surtout dans la Chambre des représentants, qui se concentrera sur le fait d'obtenir le moyen dans le Congrès. Ou ce genre de questions, on y fait face avec toutes les ressources des États-Unis disponibles et les capacités qui sont là. Développer une approche sur 50 ans pour augmenter la productivité de la population. Et en faisant cela, on fera en sorte que la population passe les vitesses et avance. Et on avancera comme on l'avait fait sous la période de Roosevelt. Quand Roosevelt est arrivé comme président, il pouvait à peine trouver un crayon dans son bureau. Il y a quelques assistantes qui attendaient à côté, c'est tout. Et on va le faire pas à pas, comme il l'avait fait. Il avait bâti la plus grande machine que le monde avait jamais vue. En moins d'une dizaine d'années. Ça, c'est le genre de défi que la vie nous réserve. Si on prend une vie pleine d'espoir à tout cela, on se rend compte que finalement, la façon dont on y réfléchissait n'allait pas. Et si on implique des jeunes de plus en plus dans ce processus, des jeunes adultes, qui entre 18 et 25 ans en particulier, on les implique de plus en plus, qu'on va faire se ressusciter, réjuvenir. Parce que les jeunes veulent aller quelque part. On a pas mal d'autres questions. Je suis exactement au cœur de ce dont tu viens de parler. Une question qui vient de la direction du comité économique bipartisan. Il y a des membres, pardon, pas bipartisan, mais qui réunit des membres de la Sénat et de la Chambre. Monsieur Larouche, comme vous êtes sûr, que je suis sûr que vous en êtes conscient, nous sommes sûrs que vous en êtes conscient, nous nous faisons face. Nous approchons d'un déficit annuel absolument record. Le dernier était bien au-delà de 50 milliards de dollars et 33 étaient dus à la Chine. D'un autre côté, nous reconnaissons que ce problème est le résultat de l'effondrement général de la production et que ça doit absolument être discuté. Mais c'est aussi indéniablement le cas que c'est aussi à cause de la manipulation injuste de la monnaie par la Chine. Le comité voudrait investiguer la façon correcte de faire face à ce que des filles croissants avec la Chine et de la façon dont ils manipulent leur monnaie. Êtes-vous d'accord? Alors que nous allons prendre une étape historique pour relancer la production américaine, on doit aussi commencer à prendre une ligne dure vis-à-vis de Pékin et leur monnaie sous-évaluée. C'est nous qui avons créé ce problème, qui n'a pas été créé par la Chine. C'était créé par les États-Unis et les Britanniques. Point barre. On voulait contrôler la Chine pour la contrôler contre l'Union soviétique. Ça, c'était la mission. Pour faire ça, pour rappeler, la Chine a beaucoup de personnes pauvres. Ils ont encore beaucoup de gens pauvres aujourd'hui. Ils ont besoin d'un accroissement monétaire chaque année. S'ils n'ont pas, ils vont avoir des ennuis. Le conflit a été créé par la stupidité des États-Unis à la base. Ce à quoi je faisais référence, au sujet du budget d'équipement, c'est que le système mondial d'aujourd'hui est encore un système basé sur le dollar. À cause des années 30, des mesures qui ont mené jusqu'à l'adoption du système de Bretton Woods, le dollar des États-Unis, en tant que monnaie, est ce qui détermine le reste du monde. Toute valeur monétaire est aujourd'hui définie par le dollar. Il y a la conférence des Açores en 1972 qui a fait casser le système de Bretton Woods, mais malgré tout, le dollar a continué à être le dénominateur commun pour toutes les monnaies du monde. Si on fait une réorganisation, il faudra la faire sous le dollar, faire en sorte que le monde sorte d'un plongeon aujourd'hui, qui nous amène vers une crise d'effondrement général. Et ce qui va se passer avec la relation avec la Chine dans les mois à venir sera déterminé par le fait qu'il va falloir changer tout ce système de toute façon. L'idée de se battre avec la Chine, surtout avec la Chine, de toute façon, ça ne va pas. Il faut comprendre toute la situation. Maintenant, nous représentons la seule existence, le seul moyen d'acompte monétaire crédible à l'heure actuelle. Le dollar, je le répète, est à la base des dénominations monétaires dans le monde. Il y a notre ennemi qui est l'Empire anglo-hollandais, l'Empire britannique, et c'est notre ennemi. Ils veulent le détruire, ce dollar. Ce qu'on va devoir faire, c'est intervenir sur toute cette question. Avec une idée, c'est qu'on va organiser une défense du dollar des États-Unis avec un système de change fixe pour le monde. Parce que si un effondrement de 20 à 30% dans une petite période de temps, je vous garantis que toutes les parties du monde vont s'écrouler avec. Sans exception. Parce que même avec leur propre système monétaire, ils ont coupé leur budget, coupé leurs employés. Ils sont en train de s'enfoncer dans un âge des ténèbres. Quelqu'un doit créer un nouveau système basé sur le dollar des États-Unis, à un taux de change relativement fixe. Ça deviendra un critère de référence pour tous les autres pays. Sinon, c'est le monde entier qui part en enfer. C'est pas ça qu'on va faire. Et donc, toute discussion sur la négociation, un problème existant avant que ça ait lieu, c'est une perte de temps. C'est seulement contre-productif parce que vous êtes en train de vous préoccuper de choses qui sont une perte de temps. Au lieu d'organiser autour de la seule chose qui vaut le coup de faire. Le dollar américain, en tant que dénominateur de taux de change fixe, est le plus important, une valeur. Arbitrage n'est pas une valeur, la question c'est une valeur intrinsèque. Et ça, c'est quelque chose qui est politiquement défini. Ce qu'on dit, c'est que pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse maintenir notre système de crédit à l'échelle internationale, on a besoin d'un dollar à partir duquel on fait un taux de change fixe. Il n'y a aucune autre monnaie qui peut faire cela. C'est à partir de là que va se définir le niveau de crédit des États-Unis. ce sera à partir de là un critère de stabilité pour le reste du monde. Il n'y a aucun autre instrument qui peut faire ça à l'heure actuelle. Ne faites pas, c'est le monde entier qui s'écroule. Et à ce moment, la question s'en fout des relations entre la Chine et l'Inde et les États-Unis. Soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Et si vous le faites pas, vous allez avoir des problèmes avec la Chine de toute façon. Si vous le faites, vous n'allez avoir aucun problème. Notre dollar, il est sous-évalué en fait. Si on regarde que l'avenir du dollar pourrait être, si nous prenions l'initiative de relancer un système de charge fixe pour le monde, alors le dollar devient quelque chose d'une grande valeur. Le truc, c'est qu'il faut penser dans les bons termes. Aujourd'hui, oui, la Chine est au bord de la désintégration. Si le commerce entre la Chine et les États-Unis diminue, la Chine ne s'étendra pas, ne se développera pas, la production ne se développera pas, et la population ne se développera pas. La Chine a commencé à s'exporter à nous pour se développer elle, au lieu d'essayer d'exporter, entre guillemets, d'exporter de la richesse, mais à l'intérieur dans leur propre pays. Imaginez, c'est le seul pays au monde où il y a des milliardaires du Parti communiste. Il y a des milliardaires dans le Parti communiste là-bas. Et d'un autre côté, on trouve parmi les plus pauvres des gens dans la population en Chine, comme en Inde. Le problème, c'est que la culture asiatique, c'est une culture oligarchique. C'est-à-dire que les États-Unis viennent d'une culture européenne qui émergeait hors de la lutte dans la civilisation grecque. Où il y avait une bataille pour développer une société à la base basée sur son peuple. Et c'était la lutte qu'il y avait entre Sparte et Athènes, entre Solon et Lycurgue. C'était la lutte entre l'oligarchisme et la liberté. Ces oligarchies terribles ont été influencées par les politiques oligarchiques, ce qui a été mené comme bataille contre les politiques oligarchiques, disant que tous les êtres humains sont égaux. On n'est pas des singes. Il y a peut-être qui ressemblent comme ceux qu'on trouve dans la Maison Blanche aujourd'hui. On reconnaît qu'il y a un principe. Et que toute personne, y compris en Chine, a finalement des droits sacrés. Et une culture qui ne va pas avec ça, finalement, ne durera pas. Le problème qu'on a en Asie, c'est un problème asiatique, ce n'est pas un problème chinois. Notre tâche était et a été d'assister l'Asie à bâtir la base pour eux-mêmes, de trouver la liberté que nous, on peut développer dans nos meilleures humeurs. Donc on va augmenter la valeur du dollar en faisant en sorte que le dollar se développe à partir du plus grand flux de crédit public, de crédit régulé. Et qu'à la base de ceci, on va immédiatement créer un accroissement de la valeur du dollar. Et le problème de la valeur du dollar par rapport à la valeur de la monnaie chinoise, c'est un problème du système des États-Unis d'aujourd'hui. Si j'étais président, je peux vous garantir que j'augmenterais la valeur du dollar. Et ça résoudrait le problème. Vous n'avez pas envie de faire ça aux États-Unis, ben vous ne plaignez pas de la Chine. C'est ça le problème. Le problème de nos politiciens, c'est que cette pensée cartésienne, gens qui croient au rapport idiot qu'on leur sort sur les prévisions statistiques, mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucune compétence. Les membres du Congrès se sont fait avaler, on a réussi à leur faire croire toutes ces espèces. Mais c'est que du non-sens, c'est du blabla, c'est de la boue jetée dans la farine. En fait, j'enclenche une petite coopération avec la Chine, si j'étais président. Avec l'Inde également, c'est important. Je connais pas tout sur leur culture, mais je connais suffisamment. J'ai travaillé avec des gens comme Indira Gandhi dans des périodes précédentes, des gens de ce type. J'ai pas l'intention de devenir président des États-Unis. Et donc, je dois garantir que le boulot soit fait, comme si moi j'y étais pour le faire. C'est ça qui résoudra le problème. ceux d'entre vous qui écoutent par Internet. Vous êtes en train d'écouter une présentation en direct à Washington par Lyndon LaRouche. Vous nous envoyez des questions pour M. LaRouche que nous prendrons autant que le temps nous permet. Lynn, voici une autre question dans une veine similaire. Elle vient de, cette fois-ci de la Chambre, qui vient d'un tout nouveau congressiste. L'autre venait d'un sénateur déjà, qui avait déjà fait quelques mandats. Monsieur LaRouche, quand Bob Rubin nous a parlé, nous n'avons pas eu l'occasion de lui demander tout ce que nous aurions voulu. Et la plupart des questions qui lui étaient posées avaient à voir avec des questions liées au commerce. Des choses qu'il a dit, alors qu'il reconnaît le problème de la mondialisation et ses échecs, qu'à l'heure actuelle, il ne serait pas nécessairement en faveur de fermer tous ces accords de libre-échange. Parce que ça ne peut-être pas, et ça aiderait à faire s'effondrer les économies d'autres pays. Il m'a aussi surpris en disant qu'il pensait que demander des conceptions sur la main-d'œuvre, enfin, au sujet de la main-d'œuvre et de l'environnement pour des pays de bas salaire comme la Chine et l'Inde, ultimement, ça n'allait pas mener au progrès. Il a insisté que nous collions à notre politique de commerce à l'étranger. Nous améliorons notre éducation, nous défendions le dollar. Et que nous occupions des besoins infrastructurels de notre pays. Et aussi ce qu'il a dit comme étant quelque chose d'aussi important, c'est d'induire le genre d'optimisme. Il fallait induire le genre d'optimisme qui permettrait d'être en compétition avec le commerce autour de nous, avec l'environnement commercial. Enfin, je sais, il y a une similarité à ce que vous dites, mais je reconnais aussi les différences. Vous pourriez, s'il vous plaît, prendre cette question dans l'ensemble, du point de vue que M. Rubin l'avait pris. Il faut comprendre la différence entre Bob Rubin et moi. La différence, c'est qu'il est un banquier et qu'il opère de point de vue de ce qu'il fait. Et il y a une différence entre ce que lui doit faire et ce que moi je dois faire. Lui devant garantir que les fonctions bancaires restent sur pied. Et un politicien des États-Unis confond Bob Rubin avec ce que eux ont la volonté de faire par rapport à la réalité. Lui va tenter de s'adapter à cette réalité aussi bien que possible. D'un autre côté, les gens se mettent d'accord parce que les États-Unis doivent faire, ça sera peut-être bien différent de ce que lui personnellement voudrait faire. Lui dira, je suis un banquier, je dois opérer au sein du système des banques. Et le politicien lui-même sera celui qui oriente ce qui arrivera au système des banques. Si d'un autre côté, on lui donne plus d'opportunités, ce que lui dira, c'est que si vous avez une autre politique au niveau fédéral, moi je vous rejoindrai. Je ferai ce que vous voulez. C'est pas moi qui décide de la politique. En d'autres termes, il faut regarder cet homme comme un professionnel compétent qui n'est pas un baby boomer, qui est l'une de ses forces qui agit en sa faveur. Et est en train de s'adapter à la politique que les politiciens créent. Vous êtes en train de devenir un membre de la Chambre, regardez les choses de votre point de vue. Et de ce que ça veut dire par rapport à Bob Rubin. Ne supposez pas que Bob Rubin va jouer le rôle de politicien principal, d'être un dirigeant politique et en même temps un banquier. Dans une discussion confidentielle autour d'une table, il va peut-être vous dire de ce que de ses préférences. Il ne pourrait rien faire par opposition à ce qu'il pourrait faire par rapport à ce que nous, nous voulons qu'il fasse. Je vous dirai, bon, bah, si je dois retourner à cette politique-là, même si je n'aime pas beaucoup, je le ferai. Ça dépend des gens qui sont dans le Congrès aujourd'hui. Surtout, beaucoup de points de vue par rapport au conflit qui va émerger dans la Chambre, qui va bouillonner dans la Chambre. D'avoir une politique d'auto-éducation rapide pour comprendre cela. On ne peut pas venir essayer de trouver des solutions sensées à des problèmes sensés, etc. C'est tout le système qui est en train de définir les choses. Des gens comme Myron Scholes, pour les sortir de là, emmener-les devenir des éboueurs, c'est quelque chose d'utile et pas faire des prévisions économiques. Il faut qu'on ait des gens qui soient compétents. Et la façon dont la compétence s'est développée, c'est pas en dictant aux gens ce qu'ils devraient croire. C'est en les mettant au défi, parfois d'une façon très dure. En les mettant face à la réalité à laquelle ils doivent faire face. Ce processus-là ne fonctionne pas selon des formules, mais selon des principes. Je sais comment l'esprit de jeunes personnes s'allument. S'ils s'allument avant qu'ils aient 27 ans, ils ont une chance. Si c'est après, ce sera difficile. Parce que si on n'est pas créateur avant cet âge-là, on prend l'habitude de ne pas l'être. C'est très dur de s'en débarrasser. Mais il faut s'appuyer sur les nouveaux, les jeunes qui arrivent dans le Congrès, qui n'ont pas été dans le système auparavant. Ils sont dans une situation naturelle où ils doivent poser des questions. Ils doivent avoir des questions. Des défis. Ils disent, on veut que Cheney sorte, on veut que Cheney sorte, on veut que Cheney sorte, on veut que Cheney sorte. On va continuer à vous chanter cette chanson tant que vous le faisiez. Donc, je sais que vous le fassiez. Et ils veulent aussi une solution quant au problème en général face auquel se trouve le peuple américain aujourd'hui. Il y a une opération générale qui n'est pas très, en très bonne forme, c'est le Parti démocrate en général. Et la question, c'est de poser et de discuter des questions sur lesquelles l'avenir du peuple dépend. Cette idée dans le Congrès, comme ailleurs, de suivre pour être accepté, ça, il va falloir faire accepter. Et ils viennent vous mettre au défi. Ils vous disent, ah ouais, vous croyez que vous dirigez le monde? Ben nous, on est en train de voir l'effet que vous êtes en train de faire avec vos pratiques. Et on peut vous dire que ça pue. On va discuter de ça. On va parler de comment on va résoudre ces questions. Et ici, on a besoin de votre aide, de votre coopération pour mettre tout ça en œuvre. C'est comme ça qu'on peut le prendre. Les nouveaux membres du Congrès qui arrivent aujourd'hui sont un facteur très important, aiguisé. Ils sont venus en général, en tant que des démocrates, opposés à la politique de la direction des démocrates avec Howard Dean. Ils sont venus opposés à Howard Dean. Ils sont venus pour changer ceux qui pensent ne représentent pas les questions préoccupe les gens. Et eux, il faut qu'ils soient entendus. Dans un dialogue sérieux. On va forcer le dialogue dans la population américaine, que la population américaine demande de toute façon. Faisons face à la réalité. Pas à des sujets, à des thèmes. Concentrez-vous sur l'intérêt des peuples, du peuple. Concentrez-vous sur les deux générations à venir. L'intérêt d'une nation entière. Quel serait l'intérêt de vos arrière-petits-enfants? Et vous devez reformuler les questions que vous vous posiez avant. Ce que je vois, c'est qu'on est dans la plus grosse crise. On est devant la plus grosse crise que le monde ait jamais pu vivre. Mais si, on ne sort pas de cette crise aux États-Unis, il n'y a rien d'autre qui va marcher. Question numéro 1. Si on peut mettre Cheney à la retraite et avoir une surveillance adulte pour le président. C'est une question qui nous vient d'un nouveau membre de la Chambre des représentants, un démocrate de New York. Monsieur LaRouche ? Je suis arrivé à Washington principalement à cause du soutien des gens qui n'avaient pas été pauvres en tant que tels, historiquement, mais dont le niveau de vie s'était effondré au fur et à mesure alors que la production des États-Unis diminuait. Alors que je suis d'accord sur le fait qu'il faut une augmentation du salaire minimum depuis longtemps, je pense aussi que ça ne va pas toucher vraiment les problèmes de cette on a de la population. Même un salaire minimum pour que ces gens-là puissent rembourser leurs hypothèques ou payer les universités pour leurs enfants, ça ne suffirait pas. J'ai regardé vos propositions et je suis d'accord. Qui peut vivre dans ce pays en tout en disant qu'on n'a pas besoin de reconstruire notre économie nationale? C'est évident. C'est ma question. Mais que faire pour ceux d'entre nous qui travaillent dans les secteurs privés? Pour l'industrie de la chaussure, des choses comme ça, qui dépendent des dépenses des consommateurs. Il semblerait que la seule façon de faire face à ces problèmes, c'est d'une façon ou d'une autre en regardant la question politique commerciale. Je ne connais pas d'autre alternative. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire à ce sujet. On va revenir à ce que les gens appellent parfois le protectionnisme. Il n'y a pas d'alternative saine. Et sur la question du salaire minimum, ce qu'on a fait, un des aspects les plus importants, c'est la politique du salaire minimum. Et puis pour garantir un contrat du gouvernement fédéral, pour avoir un contrat avec le gouvernement fédéral, il fallait être un adhérent, l'entreprise devait être adhérente à la politique du salaire minimum. Même le salaire minimum proposé n'est pas à la hauteur de ce qui est nécessaire. Créer une famille et la soutenir aux États-Unis. Si on regarde et qu'on trouve ces énormes supermarchés, qui ont des gens qui sont bien trop obèses et ils envoient les gens de cette façon-là et ils composent de plus en plus large de la population. Ça, c'est le vrai problème. Le problème, c'est qu'on a coupé la base de l'emploi productif dans les États-Unis. C'est là que se trouve le problème. En même temps, si on pense au facteur culturel du Moyen-Orient, si on pense au facteur culturel du salaire minimum, il y a des problèmes qui existent parmi les jeunes. On a détruit l'orientation vers un avenir. En un sens, il faut qu'on crée un sens de sécurité économique nationale à travers les tarifs douaniers. Il faut qu'on garantisse que dans certains des pays, il y ait une protection à travers les tarifs. Il y a certains développements récents dans l'économie. Il faut comprendre le protectionnisme américain traditionnel. Sinon, il n'y aura ni d'économie pour nous ni pour personne. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait des accords internationaux sur les tarifs douaniers. Et baser ces accords internationaux sur le préambule de notre Constitution. On peut dire que l'on retire les accords précédents et qu'on introduit des nouveaux accords aujourd'hui. Mais si l'on dit qu'on va réorganiser du plus haut point de vue, ça veut dire qu'on réorganise le système international monétaire et financier. Sur la base d'un système à taux de change fixe autant que possible. Et d'ailleurs, si on ne fait pas ce changement dont je viens de parler, tout le reste de l'économie dans le monde va s'éclater de toute façon. Toutes les questions deviendront secondaires. Par exemple, on ne peut même pas avoir des caleçons qui tiennent la route aujourd'hui. Par exemple, un vieil homme comme moi, qui va aller acheter son caleçon. Étant un vieux comme moi, regardez un truc tout simple. Il va falloir un critère de qualité dans la marchandise. Le problème, c'est les gens qu'on a dans le Honduras, par exemple, qui sont pleins d'esclaves. Qui travaillent pour le bénéfice d'un requin ici sur les marchés. Et à la fin, vous vous retrouvez assis, vous demandez si vous êtes assis vraiment sur quelque chose. Monsieur Laroche, je suis un nouvel arrivant du Congrès, mais pas de Washington. Qui est depuis les derniers jours, le législateur se fait bombarder de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Individuellement, le fait est qu'aucun d'entre nous. Certains d'entre nous ont discuté de faire un rassemblement des nouveaux membres du Congrès. On nous a dit que c'est une très très mauvaise idée. Pensez à quelque chose de type, on n'est pas en train d'essayer de déranger, on est en train d'essayer de voir comment on peut être entendu. Si quiconque, au cours des dernières années, étudiait ma politique sur les mouvements de jeunes adultes, C'est ce qu'on a besoin de la vitalité du gouvernement. C'est-à-dire la génération la plus jeune. Je suis désolée pour ceux qui écoutent la traduction, le son qui m'arrive est très faible. Pourquoi ? C'est souvent les générations qui sont plus jeunes qui peuvent voir ce que font les générations plus vieilles comme erreur. C'est assez normal, c'est un processus générationnel. Les générations plus vieilles se sont habituées à penser d'une certaine façon. Et les autres arrivent et disent « pensez de cette façon-là, mais ça, ça nous a détruit ». L'intervention de nos jeunes dans cette situation. Dans la suite du développement du chant choral Bel Canto, c'est une intervention, nous sommes en train de provoquer un changement révolutionnaire. Et on voit la contribution marginale de cette génération plus jeune. Et cette augmentation du vote dernières élections. Et le fait que les jeunes, des nouveaux congressistes démocrates aient été élus, c'est le reflet du vote des 18 à 35 ans. Par conséquent, on trouve des membres du congrès qui sont tout neufs, et qui, eux, sont le reflet de cela en tant qu'un groupe. C'est comme ça que le Parti démocrate en est revenu à l'existence. À une simple existence après des années d'absence. C'est comme ça que ce pays avancera. C'est pas juste les gens qui sont contre la guerre de Bush, etc. C'est important le processus législatif des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il reflète cette nouvelle génération adulte s'est manifestée comme une force en politique croissante. Qui a changé l'humeur et la façon de penser, qui va changer l'humeur et la façon de penser des générations plus âgées. À l'heure actuelle, le Parti démocrate est pratiquement en train de retrouver ce qui a été perdu en 68, pardon. Face à une nouvelle génération qui veut réparer ce qui a été raté par la présidence. Il y a plus de questions sur certaines de ces questions-là qui viennent des membres du Congrès. Aussi quelques-unes de certaines personnes du personnel, du personnel professionnel du Congrès. Il faut dire qu'on est en train d'être bombardé de questions sur la situation actuelle au Moyen-Orient et en Afrique. Et je voudrais en prendre quelques-unes parce que il y en a tellement. Elles nous viennent aussi bien des États-Unis et à quelle échelle internationale, venant de jeunes comme de plus vieux en général. Les questions couvrent deux domaines liés. Le premier est caractérisé de M. Abdullah qui est dans l'audience ici, où il demande qu'est-ce que fait l'intervention éthiopienne en Somalie. Et l'autre question passer. Beaucoup vous sont en train de vous demander du bombardement récent par les États-Unis en Somalie. Le bombardement récent par les États-Unis en Somalie. Et en fait, le reflet d'un changement de phase qui est derrière l'intention de Cheney d'avoir une montée en puissance des troupes en Irak et d'attaquer l'Iran. La politique sur l'Afrique si on regarde ce qu'a été la politique des États-Unis après la victoire au Soudan, c'est une politique impériale. Notre ennemi, finalement, c'est le gouvernement britannique. L'intention a été depuis février 1763. L'intention de la Compagnie britannique des Orientales ce qui est au cœur de ce qui est devenu le libéralisme anglo-hollandais et britannique aujourd'hui. Un empire mondial basé sur le modèle du contrôle par Venise de la chevalerie normande. Ça, c'est la politique. Ce genre-là d'empire, pas un empire romain, comme l'ancienne Rome, non. C'est sur le même principe. C'est basé, mais c'est notre forme. C'est un ensemble de banques, de banquiers, qui s'assemblent, souvent en des querelles, mais qui, en tant que groupe, ont certains points communs. Et ils mènent une force militaire privée pour contrôler des masses de gens. Et l'intention de cette clique, cette foule, est d'établir un empire britannique. Véritablement un empire des réseaux impériaux anglo-hollandais, différentes monarchies. À l'heure actuelle, il y a deux politiques en cours, la politique des Britanniques en tant qu'ennemi des États-Unis depuis février 1763, vis-à-vis de l'Eurasie et de l'Afrique. Depuis la victoire d'Abraham Lincoln contre la Confédération sudiste des Britanniques, leur laquais, les Britanniques ont eu une intention, ont commencé à développer la géopolitique. L'Empire britannique a perpétué sa puissance à travers leur agent Napoléon Bonaparte. À travers ce qu'il a fait pour la destruction de l'Europe continentale, d'améliorer l'Europe, l'Empire britannique. Par l'effondrement de l'Empire. La politique avec l'Afrique est une politique particulière. La politique des Britanniques avec l'Afrique, celle qu'exprime Henry Kissinger. Ses propositions où il disait que la population africaine était trop grande, qu'elle consommait trop de ses propres ressources naturelles. On en avait besoin pour notre avenir, on ne voulait pas que les Africains viennent s'en mêler là-dedans. On n'avait pas envie que la population africaine augmente. On voulait au contraire qu'elle diminue. Et qu'il n'y ait pas une augmentation de leur puissance productrice en tant que main-d'œuvre. Qui ne se mettent pas à vider toutes les matières premières qu'on avait l'intention d'utiliser. Et par conséquent, faisant en sorte qu'il n'ait pas l'accès aux progrès technologiques. Ce qu'on a aujourd'hui, qui est aussi très ancien, la question est que la façon de stabiliser le monde, c'est en prenant une zone qui s'appelle l'Asie Sud-Ouest, qui est au point de jonction entre l'Afrique. C'est le point de référence pour l'Europe.
Vous aviez toute cette zone. Regardez, là, regardez cet environ. Depuis que ça a été documenté, on trouve, depuis que a été documenté l'histoire européenne, on trouve que là était le noyau de beaucoup des interventions du pays impérial. Que ce soit l'Empire romain, l'Empire de Byzance, le système ultramontain du Moyen-Âge ou le libéralisme anglo-hollandais. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une tentative de déstabiliser toute la région en créant un conflit généralisé qui s'étendrait de l'Asie centrale jusqu'à l'Iran, jusqu'à la Turquie. Et tous les environs sont des est une zone finalement d'intervention géostratégique. Ça, c'est pas notre politique à la base, c'est la politique britannique que Cheney défend aujourd'hui comme une brute débile qui a l'air un peu plus intellectuelle que Bush. Que sa femme, pardon. Sa femme est plus intellectuelle, mais elle est autant une brute. Elle le tient en laisse. On n'est pas devant des conflits, des versions scénarios d'Hollywood ou d'une bande dessinée. Il faut voir qu'il y a des véritables êtres humains. Et les êtres humains sont des créatures de culture. De culture développée. À travers des générations. Et à la capacité humaine de générer des idées. Aucun animal ne peut ne pas faire. Un être humain ne meurt jamais. Quand le corps meurt, il reste les idées qui ont été transmises à travers eux, ou générés par eux, qui continuent à vivre à travers la société. Un individu humain est un petit immortel. À partir du moment où il développe ses idées, peuvent demeurer toujours fraîches. Donc quand on regarde cela, du point de vue du comportement humain, de la culture, on voit que les conflits sur cette planète sont des conflits culturels. Henri Kissinger, par exemple, disait qu'il était obsien. C'est plus une conception sur l'homme. Et on peut dire que Kissinger a déchiré sa carte de membre de la race humaine. Quiconque a une politique similaire, c'est pareil. Il y a des gens qui ont déchiré leur carte de la race humaine. On peut même plus appeler des gens. Et ça prend la forme d'une lutte entre bien et mal, en un sens. Ce qu'on regarde avec Cheney et avec cette espèce d'idiot lavé du cerveau, notre président. Ce qu'on en regarde, c'est la lutte des forces du mal. Pas parce qu'elle représente un empire point barre, mais parce qu'elle représente une tendance culturelle. Et le mal, c'est pas quelque chose de naturel, d'être mauvais. Ce qui arrive à des êtres humains dégénérés. Les êtres humains sont en général bons, ils sont nés bons. La question, c'est les conditions ensuite qui sont présentes dans la culture et qui transforment une personne bonne en une personne dégénérée. Donc, on voit ici, dans cette opération, ce qu'on voit des forces de mal contre l'Éthiopie. Henri Kissinger l'a fait. Comment a-t-il fait? Eh bien, si on reprend les années 70, la Somalie, avait été soutenue par l'Union soviétique et l'Éthiopie avait été soutenue par les États-Unis et les Européens. Et on a arrangé le conflit. Les Soviétiques étaient alors sur l'Éthiopie. Et les États-Unis avec Henri Kissinger sur la Somalie. Et une guerre entre la Somalie et l'Éthiopie a été orchestrée. une guerre pour contrôler les eaux du Nil. Du lac Victoria jusqu'à l'océan, jusqu'à la mer Méditerranée. Un accord a été conclu sur les régulations de l'eau. Si on déstabilise cette zone, comme ça... Alors, les accords sur l'eau sont dressés. Les Britanniques prennent les eaux du Nil. Avec 500 de canalisation en plastique, ils emmènent l'eau en Israël. C'est ça qui se passe. Depuis un moment. Ça, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Mais c'est nécessaire de comprendre qu'il y a une force qui a l'habitude de faire le mal. Dont on voit le reflet dans ces actions-là. En train de faire ça parce qu'il y a une cause passionnée. Regardez par exemple la guerre de Satan en Europe. Ça a été un jeu. Il y a une guerre entre la Prusse, la France, les Austro-Hongrois. Les Britanniques ont financé le déploiement de troupes. Et une fois que les Britanniques avaient accompli ce qu'ils voulaient, ils ont arrêté de soutenir Frédéric le Grand. C'était ça leur arrangement au départ. Et l'Europe était tellement affaiblie. En particulier avec les Britanniques, qui avaient maintenu un pouvoir sur l'Europe. Et depuis ce moment-là, ils ont maintenu ce pouvoir. Napoléon Bonaparte était nominalement parlant leur ennemi, mais il a mené les guerres qu'il voulait qu'il mène. Après le congrès de Vienne, l'Europe a été dominée par cela complètement. Par les libéraux anglo-hollandais. Ça, c'est la façon dont ils opèrent. Pensez pas dans les termes infantiles, des BD. Ah oui, un tel déteste un tel, c'est pour ça qu'il y a la guerre, en général. Les guerres commencent parce qu'on orchestre des guerres entre des peuples. C'est fait par des forces impériales. La mondialisation, regardez ce qu'il y a eu le 11 septembre. À nouveau, vous êtes en train d'écouter transmission en direct de Washington avec l'économiste et homme d'État Lyndon LaRoche. Lynn, c'est une question qui vient d'un démocrate de longue date du Sénat américain. Monsieur LaRoche, il est clair, étant donné les remarques de George Bush, qu'il a l'autorité nécessaire en tant que commandant en chef pour envoyer beaucoup plus de troupes en Irak. Le sénateur Kennedy a remis cela en cause, ce qu'il a dit mardi. Et il a introduit une législation dans les deux chambres du Congrès pour empêcher cela. En même temps, il a dit qu'il allait avoir 4 semaines d'audience l'administration Bush sur la politique de l'Irak. Par contre, pendant le discours de Bush, les soldats irakiens ont organisé un raid sur l'un des consulats iraniens dans une zone kurde. Ils ont pris certains Iraniens comme prisonniers. On a vraiment le temps d'avoir 4 semaines d'audience. Ou est-ce qu'il n'y a pas une action immédiate qui est nécessaire? Il y a une action immédiate qui est absolument nécessaire, sinon tout le reste ne vaut absolument rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une administration qui est en train d'agir comme une dictature, comme Adolf Hitler. Les forces qui sont derrière cette administration sont les mêmes que celle qui était représentée par Adolf Hitler, pour qui il travaillait. On a puni les gens qui avaient porté les uniformes des nazis. On a redonné le pouvoir à ceux qui avaient été derrière Hitler, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Europe en général. Ce qui a créé la dictature d'Hitler. Ce sont des forces qui existent encore en tant qu'une force sociale aujourd'hui. Ce sont des buts aujourd'hui qui sont similaires à ceux qu'avaient les Britanniques. Ainsi que certaines personnes à New York, on appelle Larry Mann, qui étaient derrière Hitler. C'est les mêmes que ceux qui étaient derrière Mussolini, qui l'ont soutenu jusqu'en 1939. J'ai un ami qui était à la tête de l'OSS en Italie et qui chassait Mussolini. Et qu'il voyait avoir des réunions avec Churchill au delà de la frontière. Il essayait de faire du chantage à Churchill. On a tenté de tuer Mussolini. Le papier qu'il avait avec lui a disparu. Et puis on a retrouvé le corps de Mussolini et de sa copine pendu à l'envers dans une station essence. Mais ces forces qui étaient derrière les Hitler, les Mussolini, ces gars-là, c'est pas qu'ils aimaient Hitler, ils pensaient l'utiliser comme du papier toilette. On jette après. Après, on cherchait du nouveau papier toilette. Il y en a un qui s'appelle Bush, un autre qui s'appelle Cheney. Ça ne devrait pas être pris comme une excuse pour ne pas utiliser de papier toilette. Il y a quelques autres questions à ce sujet. C'est une question qui vient d'un nouveau membre de la Chambre des représentants. Et M. LaRouche, comme une prélude, un prélude au discours de président Bush, et je pense que ce n'est pas accidentel, une force américaine, soi-disant, en train de rechercher en Somalie des forces, trois personnes d'Al-Qaïda, ont fait hier soir quelque chose de similaire en tentant de au raid sur le consulat iranien. Et il semble qu'absolument tout soit permis quand on poursuit Al-Qaïda. Pourriez-vous parler de la véritable menace terroriste auxquelles font face les États-Unis et de comment s'en préoccuper? La première menace terroriste que nous avons aujourd'hui, c'est le vice-président Cheney. Sur Al-Qaïda, Al-Qaïda a été essentiellement créé par celui qui est alors vice-président George H.W. Bush et Jimmy Goldsmith. Brzezinski est celui qui avait lancé cette guerre en Afghanistan au départ. Les Soviétiques avaient aidé les Vietnamiens à développer des tactiques de guerre irrégulière. Et les États-Unis ont renvoyé l'ascenseur en lançant une guerre asymétrique en Afghanistan. Un piège pour l'Union soviétique. C'est visible chez Jimmy Goldsmith en tant qu'agent la Grande-Bretagne. Se retrouver impliqué dans ce qu'on appelait l'affaire de l'Iran contre. Ils sont basés sur des coopérations avec certaines familles saoudiennes pour créer ce piège contre l'Union soviétique. Ils ont essayé de recruter des jeunes riches et des jeunes en général contre. Ils essaient de les organiser à des milieux fanatiques. Ils ont réussi à avoir quelqu'un d'une grande famille, proche de la famille Bush, qui s'appelait Osama Ben Laden. Et elle impliquait dans une mobilisation en Afghanistan contre les forces soviétiques. Donc la guerre avait été finie, le mur était tombé. La famille de Ben Laden a gardé des liens très proches à la famille Bush au Texas. Al-Qaïda est un mouchoir jetable. Al-Qaïda n'était qu'une parade, alors que derrière, ce qu'il y avait le 11 septembre, c'était un coup d'État. Avant l'inauguration du George W. Bush, janvier 2001, je disais qu'elle est sur la base de ce que l'on voyait venir par rapport à l'incompétence de l'administration Bush. Et le fait qu'on avait déjà rencontré une nouvelle phase de désintégration financière, George W. Bush serait incapable avec ses politiques de faire face à ça. Et on devait s'attendre à ce qu'il ait le même type d'action que ce qui avait rendu Hitler dictateur, qui avait été un incident du type, qui pourrait être un incident du type de l'incident du Reichstag. Et des événements basés sur les protestations contre la mondialisation, des événements où l'on pouvait voir une perspective en octobre, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. On regardait ce qui se passait autour des événements antimondialistes à Washington. Et on pensait qu'il allait se passer quelque chose à ce moment-là. Est-ce que les États-Unis et d'autres avaient des individus terroristes dans des opérations en Afghanistan? On manquait pas de talent. Il faut décorer l'environnement. Et prétendre que mettre tout ça sur le dos d'un groupe islamique. Le fait de trouver des slips islamistes, ça vient de Samuel Huntington, qui était sous William Lyndall Elliott, un agent britannique, dans un groupe qui impliquait Henry Kissinger, avec ce genre de situation-là. Voilà le genre de problème à ce que nous trouvons. Ça, ce sont les méthodes de la guerre asymétrique. Au lieu ou en plus d'actes de guerre conventionnelle. Comme si on regarde ce qui a commencé officiellement la Seconde Guerre mondiale, c'était une provocation de guerre asymétrique. Créer une situation où il y avait quelque chose qui allait devenir une question qui allait devenir un prétexte. Osama Bin Laden n'a jamais été attrapé, il n'y a jamais eu de tentative sérieuse de l'attraper. On se demande si on ne trouverait pas si on allait chercher dans le ranch de Crawford. Voilà un endroit qui n'a pas encore été bombardé. Donc ce qu'on voit, c'est quelque chose qui serait considéré terme diplomatique, comme un acte criminel et qui est fait sur le sous le prétexte d'action contre Al-Qaïda. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui joue des jeux, qui se crée une situation qui mènera à des conflits asymétriques, qui mènera à un conflit aérien, un bombardement aérien. Ça, c'est le sens de la montée en puissance des troupes à Bagdad. C'est une opération pour soutenir un bombardement de l'Iran. Le président le sait probablement, mais il y a beaucoup de choses que le président ne sait pas. Probablement où sont ses chaussures. On ne doit pas surestimer l'intelligence de George W. Bush. Si on voulait détruire les États-Unis, la première chose à faire, ce serait de rendre George Bush président. Et tuer le vice-président. Les États-Unis n'ont jamais été aussi discrédités ou aussi bas que maintenant, à cause de l'intervention de George W. Bush. Les États-Unis sont en train d'être détruits de l'intérieur, à cause de ces clowns et ceux qui les soutiennent dans notre gouvernement. Et les gens du Congrès ont intérêt à comprendre cela. Ces raclures doivent être sortis de là parce qu'ils sont pires que des traîtres. Vous savez, au cours de toutes ces années où j'ai été associée à vous, où j'ai été associée à toi, il y a eu une série de défis qui ont été sur la table. Et le plus grand défi que l'Union ne nous a jamais donné, je pense que c'est de ce qu'il vient de dire, c'est de ne pas surestimer l'intelligence de George Bush. Lynn, voilà une question que je pense que celle qui pose la question, connaît probablement la réponse, mais je crois qu'elle veut que entendre ta réponse, que les gens l'entendent publiquement. Quelqu'un qui travaille dans le personnel d'un membre du Congrès depuis longtemps. Céline, je pense que tu sais que nous avons un déficit énorme et que les réductions d'impôts de George Bush ont complètement exacerbé ce déficit. Je voudrais savoir ce que tu penses de ce qui doit être fait par rapport à notre politique sur nos politiques fiscales, par rapport à notre situation générale. Tout d'abord, les revenus les plus aisés devraient enfin prendre leur partie de la charge. Ensuite, il devrait y avoir une grosse taxe, de gros impôts, contre la spéculation faite par les hedge funds. Le monde est en train d'être détruit par la spéculation financière. Les banques américaines sont impliquées là-dedans. À cause de leurs opérations de spéculation, ils ont mis le dollar sur la sellette. Toute banque majeure des États-Unis est à l'heure actuelle en faillite. Il n'y a pas une seule banque solide aux États-Unis aujourd'hui. C'est vrai que Bob Rubin aurait tendance à être d'accord avec moi. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut une réorganisation financière générale pour tout le système de la réserve fédérale. Sur le système des fonds spéculatifs, toute la bulle immobilière et les autres bulles, c'est grâce à ça que les États-Unis ont accumulé une dette au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. La façon que l'on peut regarder nos dettes vis-à-vis du reste système financier international montre qu'il n'y a absolument aucune possibilité qu'elle soit remboursée. Cette dette doit être annulée. Le Congrès doit faire en sorte que cette pratique de permettre aux hedge funds d'avoir ces dettes cette pratique a été introduite par Alan Greenspan était mauvaise et devrait être comptée comme criminelle par ses effets et par son intention. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux lois qui sont passées. Une, c'est de bannir cela. Deux, faire en sorte que telle activité devienne une activité criminelle. Comme violer des enfants, c'est un crime. Parce que là, on est en train de violer un pays, des gens. Et c'est un crime. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est un gouvernement sous notre constitution, quelqu'un qui est en train de mener une attaque contre le dollar devrait être jugé. Qui est le plus gros traître? C'est Alan Greenspan, regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la bulle immobilière. Comment? En utilisant son argent à travers Fannie Mae. En utilisant l'argent du BII à travers Fannie Mae, d'autres institutions similaires. Et 1987, c'est lui qui est l'auteur de tout cela. Tout le système s'est fait pourrir par cet usage des dérivés financiers par lui. Par exemple, le cas du comté de Loudoun en Virginie. Toute cette zone est complètement en faillite, de façon désespérée. Certains des résidents se sont fait avoir et tout le comté est devenu bête. C'est un comté dortoir. Il y a plein de maisons avec plein de choses farfelues. Il n'y a pas vraiment de bonnes industries. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de système d'égout. Ce qui s'est passé, c'est que ce comté est devenu la cible la plus facile d'une bulle immobilière. Une fois que ça a lieu, qu'est-ce qui arrive au comté en question? Beaucoup de maisons se retrouvent très endettées. Au fur et à mesure que les prix diminuent. On atteint un point où il y a un effondrement général de toute la bulle. Y compris dans le centre de ce comté-là. Là, ce qui se passe, c'est que c'est le comté lui-même qui tombe en faillite. À ce moment-là, il y a un chaos potentiel. Un chaos insoluble à l'heure actuelle. Ça, c'est le genre de choses en Californie, à Londres, d'ailleurs. Situation terrible en Espagne aussi. Là, on a une pestilence qui est une menace à la vie et au bien-être en général de l'humanité qui s'appelle les hedge funds et toutes les dérivées financières qui en dépendent ou qui y sont liées, du même style. C'est comme du trafic de drogue. C'est criminel, ça devrait être banni. On l'interdit, on confisque l'argent, comme de l'argent illégal, et on met des taxes dessus. Comme on avait des taxes sur les revenus criminels. En même temps, on les met en taule, en même temps, on prend des impôts. C'est comme ça qu'il faut prendre ces choses-là si on veut être sérieux. On va jamais rembourser toute cette dette. On pourra jamais. n'y a aucune façon de payer toute la dette existante. La seule chose qu'on peut faire, c'est les abandonner. Une question qui nous a été envoyée par Heather, une des dirigeantes du LIM ici à Washington. Je pense que c'est une question utile. Lynn, dans son dernier texte, tu as mis clairement en lumière le curriculum que certains des professionnels du Congrès doivent prendre en main pour penser clairement au cycle futur de l'économie. De LIM, avec en particulier l'équipe d'animation, sont en train petit à petit de comprendre lentement mais sûrement les bases de la science publique. On l'a vu aussi dans l'amélioration de nos déploiements en général. Ce que je pense, c'est que ces gens-là doivent prendre son curriculum scientifique central plus au sérieux s'ils veulent faire quelque chose pour améliorer l'avenir de ce pays et de ce monde. On est en train de réfléchir à comment intervenir avec ceci dans le Congrès lui-même. Et je me demandais si tu avais des conseils sur quelle approche prendre. Oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le progrès. Donc, au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, on va avoir un rapport sur la deuxième série de la découverte de Kepler, première étant sur la gravitation universelle. Deuxième étant sur l'harmonie du monde et l'organisation du système solaire. Et on fait prendre chaque partie. La chose sur Kepler, c'est qu'il est en fait le fondateur de la science physique moderne. Par les gens dans les universités ne savent rien sur Kepler. C'est sûr que ces professeurs sont absolument incompétents en astrophysique. Prendre chaque étape de la découverte. Le lecteur doit passer par là, pour lui-même. On peut apprendre les formules si on veut. C'est ce qu'on fait dans les facs aujourd'hui. Ce que ça fait, c'est que surtout si on peut reprendre les pythagoriciens et Platon, c'est qu'en reprenant vraiment les découvertes, on est capable de décrire, de comprendre la science physique fondamentale. On peut comprendre plein de choses qui sont importantes et qui sont secondaires. Si on va au tronc principal, on peut voir le travail de Gauss ensuite qui est basé sur Kepler. Et de Gauss, on passe à Riemann et à sa conception de la dynamique. Si vous ne comprenez pas les physiques riemanniennes dynamiques, vous ne comprenez rien. Vraiment. Sur comment une économie fonctionne vraiment. Ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est des jeunes qui travaillent là-dessus. Ils produisent un rapport, une présentation pour d'autres. Et la façon de d'avoir le concept qu'on en développe de la science est supérieur à ce qui est développé aux universités aujourd'hui. On peut trouver des gens dans le congrès qui aimeraient voir le rapport qui a été fait pendant cette session et le rendre disponible pour eux. disponible pour les discussions entre les gens dans le Congrès. Je pense que c'est la route à prendre. On manque de temps. Je vais prendre, la dernière question. Une question qui a été posée par un nouveau membre de la Chambre. Ainsi que une autre par un membre du LIM. Ce sont les mêmes questions, mais posées de différentes façons. Il y a d'autres questions qu'Aline pourra répondre, d'autres occasions. Le sujet. Beaucoup de questions de partout aux États-Unis et en Europe. Ce sont des questions qui ont à voir avec le film d'Al Gore. Même si on pourrait beaucoup s'amuser avec le matériau fort comique, je crois qu'une vérité malheureuse pour Al Gore, c'est que il n'est pas meilleur dans ses films que dans sa politique. Aline, voici une question qui a été envoyée par un nouvel élu du Congrès. Il demande, Monsieur Larouche, quand Bob Rouvin est venu nous parler, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il aime. Il aime. Il y a des questions très complexes et très techniques qu'on doit prendre en compte quant à la législation. Mais le fait est que très peu d'Américains s'intéressent à ce que fait le Congrès dans ces législations. Ma vision, c'est qu'on trouve une façon de les éduquer dans les détails. Je ne suis pas sûre exactement de comment le faire. Question qui est liée. Et donné, c'est Tatiana Gonzalez, qui est là de notre mouvement de jeunes argentin. Nous voulons l'accueillir d'ailleurs. La question prend la même question, mais je pense de façon plus éloquente. Elle dit, Lynn, le sujet de ma question, c'est la recherche du bonheur. Comment vraiment organiser la population avec des idées et une beauté au lieu de les bombarder avec de la simple information? Passons au bonheur d'abord. La recherche du bonheur, c'est la même chose. Le vrai bonheur est un concept présenté par Leibniz. Qu'il en parle dans les nouveaux essais sur l'entendement humain. En réponse à Locke. Il le fait en contraste au slogan utilitariste de Locke. Essentiellement, le bonheur a à voir avec l'immortalité de l'âme individuelle. Tu es en train de faire quelque chose de ta vie qui va servir les générations futures. Si ça va avoir lieu, si tu en arrives à mourir dans cette bataille-là, tu peux avoir le bonheur quand même. Il y a la célèbre histoire de Gottlob Lessing. Lessing avait mené une vie très amère, dans des circonstances où il a passé des années et s'est épousé sa femme qui est morte juste après. Et peu importe ce qu'il traversait. C'est ça là, le bonheur, être capable de faire face à la mort. Parce qu'on sait qu'on a fait une contribution à l'avenir de l'humanité. C'est ça ce qui rend un être humain humain, et qui est le différencie d'un simple animal. Le problème, c'est que l'introduction de l'existentialisme dans toute l'Amérique latine, par exemple, à cause de ce nazi Martin Heidegger, qui parle d'être jeté dans une jungle, qui s'appelle la société. Il y a des créatures qui luttent les unes contre les autres. Avec des gens comme Hannah Arendt et d'autres de ce type. Et donc l'idée qu'on n'est pas une personne qui est au milieu d'une jungle, comme les fascistes le disent, mais qu'on est une personne dans une société qui joue un rôle. Okay. Pour l'avenir de l'humanité. Votre but, c'est pas ce que vous obtenez en contrepartie, à votre satisfaction. Mais quand vous arrivez vers la mort, vous pouvez sourire. Et dire, voilà ce que j'ai fait. Je suis à peu près sûr que quelqu'un va le reprendre, je suis à peu près sûr que ça servira. Et le baby boomer, le problème du baby boomer, c'est de ne pas avoir ça. Si vous êtes un existentialiste, vous devenez plus vieux, vous devenez amer. Vous commencez à en vouloir contre tout. Vous voulez qu'on fasse des choses de votre façon. C'est mon moment, c'est pas le tien. Je veux obtenir ça, maintenant. Ça, c'est le baby boomer. C'est parce qu'on se trouve dans une culture dominée par des boomers. Comme en Argentine, au Brésil. La motivation à partir de laquelle la société se bâtit. Le fait que ce soit l'avenir de l'humanité qui était la préoccupation s'est exprimé avant chez ceux qui émigraient aux États-Unis. Et qui regardaient l'avenir dans ceux qui étaient leurs petits-enfants. Des gens qui devenaient des dirigeants dans la science, par exemple. La façon de créer les circonstances, c'est pas juste se battre. À la façon dont le destin anti-Pelosi qui lance un calendrier très précis peut être un piège. Parce que la question fondamentale pour l'existence de ce pays n'est pas en train de discuter. C'est toutes ces questions intéressantes, ok? Mais, il faut garantir qu'on ne perd pas de vue la question de est-ce que cette civilisation, est-ce que ce pays va survivre? Est-ce qu'on va poser la question fondamentale? Une fois qu'on comprend ce que veut dire cette question, est-ce que veut dire une solution à ce défi? Si on n'a pas fait ça en premier, on n'a même pas les moyens de... Il faut prendre les gens qui se révèlent être de vrais dirigeants. Qui vont au plus haut niveau de questions à poser. Et qui posent les propositions de loi qui devraient déterminer cela. L'avenir de ce pays et son rôle dans le monde. Il ne faut pas regarder toutes les questions qui surgissent. De ce point de vue-là, vous serez probablement les choses qui prendront le bon chemin. a réussi à faire rentrer la nouvelle politique et maintenant on a un bon boulot sur les mains de faire rentrer la nouvelle économie. Mais je pense, si on prend la qualité de la discussion aujourd'hui, c'est clair qu'on a toutes les chances, les meilleures chances qu'on pourrait espérer. Le LIM a été très efficace cette semaine. J'espère qu'ils vont continuer à être extrêmement efficaces. Je pense qu'ils vont continuer. Au fur et à mesure aussi qu'ils retournent aux endroits d'où ils sont venus. Ça a été une très bonne audience. Pour d'entre vous dont les questions n'ont pas été prises, on va tenter d'y répondre dans les jours à venir. Sinon, je voudrais vous demander à nouveau de me rejoindre pour remercier Lynn. Merci.